et bonsoir à tous. Merci d'être venu. On va commencer cette assemblée générale 2010 de l'association Vélo. Donc vous avez eu le programme de cette assemblée générale. Donc avant de faire la partie statutaire de l'assemblée générale, comme toute assemblée générale doit avoir lieu, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui les candidats aux élections régionales. Un certain nombre de listes, en tout cas, qui ont répondu favorablement à notre invitation. Donc, on va avoir à peu près 2 heures consacrées à ces élections régionales. Donc, les règles du jeu sont assez simples. On n'organise pas un débat en tant que tel entre les listes, mais nous demandons aux listes de passer successivement, les unes après les autres, pour présenter leurs propositions. Donc, par souci d'équité, nous donnons 25 minutes de parole par liste, dans le chronométré pour être vraiment équitable. Répartie, là c'est moins strict, mais globalement, une dizaine de minutes où la parole est laissée aux représentants de la liste pour exposer leur proposition pour le Conseil régional, et 15 minutes de questions-réponses avec vous, donc la parole est laissée à la salle. Donc les représentants des listes peuvent assister bien entendu à tous les débats. Par contre, nous leur avons demandé de ne pas intervenir dans les débats quand ce ne sont pas eux qui sont sur l'estrade, mais pour vraiment avoir un dialogue avec vous, avec les adhérents de l'association Vélo. Donc pour m'assister dans ces débats, Vincent Bernatès, qui est vice-président de l'association, responsable de la communication, donc qui va jouer le rôle de modérateur pendant ces débats et faire circuler la parole parmi vous. Voilà, je suis entièrement confiance. Et donc, pour démarrer ces débats, donc nous avons le plaisir d'avoir des représentants de la liste de Mme Barège. Donc nous avons Mme Fusset et Maxime Boyer qui sont là. Et nous allons démarrer tout de suite. Quelle heure est-il ?
4h13.
Donc vous avez la parole.
Eh bien, je remercie le président, Florent Dupuis, de m'avoir reçu. Je vous remercie à tous de bien vouloir participer à ce débat, parce que moi, j'attends surtout un débat entre nous. Sans réponse, moi, ça me va très bien, comme je vous disais. J'ai reçu, moi, votre questionnaire, enfin, en tout cas, c'est sans éléments que je possède, et différents points donc, que vous souhaitiez traiter ce soir. Et moi, de mon côté, j'ai point par point repris et j'ai des propositions peut-être, des observations à faire sur chacun des points. Donc, je vais savoir si ça vous convient, si on procède comme ça, point par point, peut-être en premier, et puis après, on passe aux questions-réponses, si vous voulez bien. On peut faire ça.
Très bien.
Voilà. Donc, le premier point, on va rentrer dans le vif du sujet, donc, hein. C'est l'intermodalité train et vélo. Je lis ou je ne lis pas ? Vous l'avez sous les yeux, vous n'êtes pas
votre
prêt ?
Oui, le document est disponible à l'entrée, donc normalement tout le monde a dû
avoir des commentaires. Vous l'avez sous les yeux, donc je ne lis pas le paragraphe, c'est pas la tête. Alors, moi, sur l'intermodalité, évidemment, je relève qu'on est peut-être favorable. Moi, je suis 100% favorable à ce qui est écrit là sur ce document. Hein. Toulouse, il faut reconnaître, avait avancé sur ces questions. Et ce que je souhaite, moi, c'est une véritable intermodalité, train, tram, bus, vélo. Voilà. Moi, c'est mon credo, donc je me base là-dessus. Donc, possibilité du train, les gens qui arrivent d'un peu plus loin, de prendre leur vélo dans le train, et puis selon là où ils vont, pouvoir prendre le train s'il faut, le bus éventuellement, enfin, toujours en avoir leur vélo, avoir la possibilité de se garer après à leur lieu de destination. Voilà ce que moi j'ai relevé sur ce premier point, pour lequel je suis parfaitement favorable. Je vais savoir si Maxime avait quelque chose à ajouter.
À ce niveau-là, c'est vrai que c'est un bon avis. Bon, moi, je
débute en politique, si on peut dire, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que j'essaie de voir en fonction de mon budget en tant qu'étudiant et savoir quels sont les moyens de transport qui nous sont accessibles, parce qu'on n'a pas accès à tous les transports nécessairement. Avoir une voiture, ce n'est pas, disons, l'immédiateté, si on n'a pas les moyens. Alors on va aller vers des modes de transport, si on peut dire, alternatifs, et le vélo, surtout lorsqu'on habite dans une zone qui est à peu près, disons, qui n'est pas très, très vaste en termes de distance, eh bien, il est une bonne idée, à mon avis, à développer. Et véritablement, là, j'aimerais, si on peut dire, sur l'autre proposition, qui est la promotion du vélo, pour notamment en mode d'accès au lycée, mais je dis aussi aux facultés, aux universités, parce que c'est bien les lycées, mais il y a énormément d'étudiants en centre de Toulouse, et véritablement, les lycées et les universités, notamment, constituent, si on peut dire, dans des demandeurs en utilisation de vélo. Et c'est vrai que bon, nous avions Vélo Toulouse qui a été développé notamment sous la municipalité précédente. J'insiste, continuons dans cette perspective-là, parce que nous, étudiants, c'est indiscutablement essentiel pour nous déplacer. Voilà, surtout Toulouse. Donc intermodalité, c'est évident. Et pour moi, c'est à vrai dire une évidence. Hein. C'est ce que je fais tous les jours au quotidien. Donc je ne peux que être en accord avec ces propositions.
On va passer aux questions peut-être. Je pense que point par point peut-être, si quelqu'un veut,
comme
veut réagir, je ne sais pas comment vous voulez.
Bon, c'est temps possible, en fait, de parcourir sur les 10 minutes qui sont imparties l'ensemble des points.
Oui.
Et ensuite, on aura 15 minutes
pour l'ensemble. D'accord. Alors, on va passer au deuxième point donc. Alors, c'est la promotion du vélo. Alors, évidemment, toujours, oui, hein, mais. Je pense qu'il faudrait aussi y apporter un complément de sécurité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous le direz après. Et je ferai aussi la remarque suivante. La formation des lycéens au vélo, parce qu'on parle de formation aux lycéens, doit comprendre aussi des actions de responsabilisation du cycliste par rapport aux piétons. C'est la petite chose que je vais vous dire.
Alors oui, j'ai une petite question là, par rapport à ce que vous vouliez dire. Sécuriser, disons, développer des parcs de stationnement vélo clôturés, couverts, gratuits, sécurisés, ouverts à tous les intercours à l'intérieur de tous les lycées de la région. Là, moi je peux parler en tant qu'ancien lycéen, parce qu'il y a que 2 ou 3 ans, c'est pas très loin. Je peux vous dire que pour un lycéen, c'est vrai, par exemple, je prends le cas d'un lycée, du lycée Toulouse-Lautrec, qui est situé au loin de Nîmes, mais qui dessert, si l'on peut dire, un certain nombre de communes extérieures. Donc, en quoi l'intercommunalité est essentielle, c'est notamment ceux qui habitent à Castel-Ginest, Grand-Intou, des communes extérieures à la ville de Toulouse et qui sont dans ces lycées-là. C'est vrai que le vélo peut être utile, mais ils vont essentiellement privilégier le bus ou faire en sorte que du covoiturage avec leurs parents, mais aussi leurs parents qui vont les accompagner jusqu'au lycée, ça c'est majoritaire. Mais ce que je veux dire, je vois qu'il faut avoir ces parcs de stationnement vélo, grosso modo, dans tous les lycées, c'est bien plaisant, c'est ouvert à tous. Il y a dans certains lycées des problèmes de sécurité, et là, notamment au lycée Toulouse-Lautrec, on ne peut pas, d'une part, laisser ouvert ces parcs de stationnement, parce que, sincèrement, il y a des dégradations, des problèmes de vélo, et les propriétaires de vélos lycéens sont pas souvent mécontents si on laisse leur parc de stationnement. Alors, je ne sais pas si pourquoi cette proposition,
ça répond à une problématique précise. Dans certains lycées, il y a des parcs de stationnement qui sont ouverts que le matin et le soir. Donc en pratique, aux intercours, les lycéens ne peuvent pas accéder au parking, ils les laissent garer à l'extérieur. C'est une vraie problématique qui se passe par exemple au lycée de Colomiers.
D'accord. Donc il faut s'entendre avec le proviseur.
Oui, je crois que c'est le cas par cas.
C'est aussi un point qui doit être réfléchi lors de l'implantation même du parc.
Plus fort.
Ça doit être réfléchi lors de l'implantation même du parc. C'est-à-dire qu'au lycée Raymond Nave, vous avez le parc des lycéens qui est en face de la loge du concierge. Donc à la limite, il voit le lycéen qui rentre, il lui ouvre le portail automatique parce qu'il le connaît. Et à ce moment-là, on a un accès permanent.
C'est
lors de la conception du parc qu'il faudrait prévoir des parcs. Avec presque un gardiennage ou un contrôle humain par la localisation.
Et les vélos sont en sécurité et les personnes peuvent récupérer leur vélo à l'intercours si le souhaitent. Alors, le troisième point, on parle des véloroutes. Alors, la municipalité de Toulouse avait créé une carte des itinéraires cyclables sur Toulouse, puis sur l'agglo, ça vous le savez. Donc, personnellement, je suis prête à reproduire ce modèle à l'échelle régionale. Je vous rappelle, c'est aussi la municipalité de Toulouse qui avait créé la piste du canal dans Toulouse. Enfin, ce sont des choses qu'il faut développer, qui sont à Toulouse et qu'il faut maintenant développer au niveau régional. En tant qu'élu régional, en tout cas, c'est ce que je mettrai en priorité. Voilà pour le point numéro 3. Merci, d'accord. Point numéro 4, intégrer le vélo dans la politique régionale du tourisme. Alors là, il n'y a aucun problème. Ce sera tout à fait d'accord. À 200%, comme on dit. Point numéro 5, adopter une politique de promotion communication en faveur du vélo comme mode de déplacement. Bien sûr que oui. D'autant que la municipalité du Toulouse avait réalisé plusieurs campagnes de communication durant le mandat, donc il faut continuer. Et puis je me réjouis que l'association vélo soit développée sur la région, ce qui existe sur Toulouse, bon, c'est comme le point précédent, on continue. Le Toulouse a été un premier pas, maintenant il faut continuer au niveau de la région. Voilà, donc, qu'est-ce qui reste Oui, pour les chiffres, parce que on parle de chiffres, alors les chiffres, moi je ne peux pas du tout en parler, parce que je ne suis pas conseillère régionale sortante, et il n'y a que les services de la région qui sont toujours sûrs de répondre, ça c'est plus technique, et je me reviens en main pour en discuter avec vous ce soir.
Alors, je peux juste rebondir sur une chose, c'est que, certes, c'est essentiellement la compétence, disons, pas de la région, mais en tout cas des municipalités, mais des pistes cyclables. Moi, je dis qu'il faut de véritables pistes cyclables en sens de tout. Disons, je ne sais pas qui, disons, je me souviens que l'ancienne municipalité avait favorisé ces pistes cyclables qui sont évidemment des bandes vertes, qui sont bien situées sur des grands boulevards. Mais moi, qui utilise le bus pour aller de la faculté à chez moi, je peux vous assurer que ce n'est pas du tout sécurisé et sécurisant. Et je pense que là, c'est indispensable qu'il y ait, dans la quatrième ville de France, avec tous les moyens que nous avons, toutes les recettes fiscales que nous prenons, de véritables pistes cyclables. Avec, il faut revoir la politique de la route, revoir la politique du transport, mais c'est essentiel. Et voilà, c'est essentiel. Le problème, c'est que la région n'a pas de compétences en la matière, mais elle peut, je pense, taper du poing sur la table et dire quelles sont ses positions lorsqu'il y a des aberrations comme celle-là, parce qu'une véritable piste cyclable, c'est pas difficile à faire, il suffit juste d'un peu de volonté. Voilà. Oui. Non, c'est ma position.
Hein. Ah,
ça me oui, je pense qu'on peut passer au.
J'avais des remarques à faire, des remarques générales. Hein. Donc, je viens de dire, il est difficile de répondre aux questions techniques et précises sans avoir l'idée, sans avoir l'aide des familles de la région. Personnellement, je perçois dans le questionnaire de l'association vélo comme une sorte de bilan négatif, quand même, hein, de ce que l'équipe sortante du conseil régional n'a pas fait en deux mandats. Donc, il y a des progrès à faire. Et pour Toulouse, ben, le bilan est réel, c'est sûr, le vélo Toulouse, plan triennal de réduction des problèmes de continuité, les bandes vertes, on vient d'en parler, il y a beaucoup à faire encore. J'attends beaucoup donc de la municipalité actuelle, parce qu'il faut continuer dans cet élan. Il y a quelques retards, je pense, il faut les combler. Et ce qui avait été préparé avec l'association vélo, programmé sur 3 ans, donc en gardant le timing qui avait été prévu, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que le timing a-t-il été respecté, pas respecté, donc ça, ce sont des remarques personnelles que j'ai fait là au niveau de tout le monde.
Par contre, pour vous dire une chose, et ça c'est une proposition de Brigitte Marège, c'était le ticket de transport unique sur toute la région Midi-Pyrénées. C'est l'idée, vous prenez le train, vous prenez le métro, vous prenez le tramway, vous prenez le bus, vous prenez même le taxi, voire les vélos par le système d'abonnement. Il y aurait un ticket unique, gratuit, sur toute la région Midi-Pyrénées pour éviter justement que... Non, pas gratuit, c'est moi. Et donc voilà, ça serait unique sur toute la région Midi-Pyrénées. Ça, c'est une proposition que je parle en matière de transport. Voilà.
Pas de transport.
Régional.
Bien.
Qui rejoint l'idée d'intermodalité, d'ailleurs.
Hein? On vous remercie. Maintenant, je pense qu'on a déjà initié quelques questions. Je donne la parole à Nassab. Tu souhaites intervenir. Si vous levez la main, j'identifierai les personnes souhaitant poser une question et successivement, je donnerai la parole. Monsieur avait posé, puis ensuite, on voit 3 mains derrière. Allez-y.
C'est juste une précision. Vous êtes candidate sur la liste de Isabelle Appareil.
Est-ce qu'on pourrait faire un effort s'il vous plaît de parler un peu plus fort?
Oui.
Pardon.
Je disais donc que ces deux représentants sont sur la liste de Mme Barret. Je voulais savoir dans quel département vous étiez candidat et à quelle position. Et pour faire quoi si vous êtes élu? Est-ce que vous avez déjà réparti les postes de vice-président?
Non, là, ce sont des questions politiques. Non, là, les postes de vice-président ne sont pas répartis. D'abord, ils étaient prévus.
Ah,
on va en parler.
Tout à fait. Hein, et puis, vous êtes là pour ça.
Voilà. Donc, pour le moment, nous sommes candidats.
Oui.
Sur la liste de Roger Barret, je me mets en Haute-Garonne. Nous sommes tous les deux issus de la Haute-Garonne.
D'accord.
Voilà. Donc, ce soir, vous n'avez pas de représentants des autres départements. Mais vous êtes de l'association régionale, quand même.
Hein, une délégation régionale de la F3B.
Et à quelle hauteur dans la liste?
Personnellement, je suis 13e.
14e. Ça répond à la question. Dans le domaine des compétences, moi je suis étudiant, donc essentiellement tourné vers tout ce qui est lycée et enseignement supérieur, bien que ça ne soit pas de la compétence de la région, mais être toujours partie prenante de grands investissements dans l'enseignement supérieur. Voilà.
Et moi, au niveau compétences, je suis dans l'environnement depuis une dizaine d'années, puisque je travaille auprès de Corinne Lepage, dont je représente le mouvement en région des Pyrénées. Très attentive.
C'était pour vous si situé pour politiquement
voilà, dans la vie, environnement, développement durable. Et d'ailleurs, mon président, le président, travaille en particulier sur ces thématiques du vélo. Il me donne beaucoup d'idées, et étant cycliste lui-même, il travaille chez Métalès, il tient son vélo. J'ai autour de moi des gens qui sont vraiment de grands utilisateurs de vélo comme lui.
Guillaume?
Ouais. Bonjour. Je voulais savoir une question beaucoup plus terre à terre. C'est un problème récurrent. Le train plus vélo, donc vous en avez parlé un petit peu. Quelles sont vos solutions par rapport aux heures de pointe quand il y a beaucoup de vélos dans les trains? Quelles seront vos solutions par rapport à ça? Donc ça c'est une première question. Deuxième question, est-ce que vous pensez donc la région est responsable de l'organisation des trains, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable quand vous allez doubler les voies, parce qu'il va y avoir des voies qui vont être doublées, d'associer une piste cyclable le long de la voie?
Je ne peux pas vous répondre maintenant, je pense que c'est nécessaire et il faudra que, de toute manière, comme j'ai dit au président,
deux questions.
Si nous étions élus, il est sûr que nous reprendrions immédiatement contact avec vous pour mettre en œuvre ce programme que vous souhaitez voir établi et puis travailler en concertation. En tout cas, moi, c'est ma méthode, je ne travaille qu'en concertation. C'est avec l'idée très ferme et volontaire de vous revoir après si je suis élue.
Première question.
Alors, la première question.
C'est l'intermodalité, période de pointe.
Est-ce que, aux heures de pointe.
Alors justement, je voulais savoir, parce que moi je ne prends pas le vélo et le train, mais je sais qu'autour de moi, enfin, surtout dans les régions parisiennes, vous avez beaucoup de personnes qui veulent prendre le train avec leur vélo. Et c'est très compliqué pour ces personnes. Alors, est-ce que je vous retourne la question, qu'est-ce que vous voyez comme solution? Est-ce que vous êtes satisfait des équipements des trains actuels par rapport au vélo?
Moi, je vous pose la question, c'est...
Ben pour le moment, je ne suis pas aux affaires. Quand je serai aux affaires,
ça veut dire que ce n'est pas un sujet que vous connaissez, quoi.
Le train plus le vélo, non, moi je vois le train, je pense qu'il faut relier train, tram, vélo, il faut une connexion entre les différents modes de transport. Transport de qualité à tout prix, le choix de la voiture. Mais comment connecter l'ensemble? Donc il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de cassure, me semble-t-il.
Vous n'avez jamais pensé à ce problème-là, qui est quand même un problème fort,
mais il faut
récurrent.
Comment ça se passe en Midi-Pyrénées, les budgets, tout ça, je ne les connais pas, je ne suis pas conseillère sortante. C'est une chose.
Vous n'avez pas étudié le sujet, quoi.
Excusez-moi, non, j'ai pas l'élément.
Attendez,
oui, quelque chose à dire.
Ok, c'est bon pour la première fois.
Il y a une de réflexion, de vos réflexions qui m'a un petit peu surprise, c'est que vous avez dit on veut des véritables pistes cyclables. Alors, là, j'ai tendance à dire attention, qu'est-ce que vous appelez des véritables pistes cyclables? Est-ce que vous faites du vélo vous-même?
Oui.
Pour vous rendre compte un peu de la qualité, de la pertinence des équipements qui sont faits. Parce que quand j'entends critiquer les bandes vertes dans Toulouse, moi en tant que cycliste, enfin, alors ça dépend des endroits, il faut étudier au cas par cas, mais je vous garantis qu'il y a des endroits où je trouve ça très bien, ces bandes vertes. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs, je pense. Alors, bon, qu'est-ce que vous appelez?
Je vous propose.
Voilà. Et deuxièmement, sur le train plus vélo, ça m'arrive de le prendre ponctuellement, il faut bien dire une chose, c'est pas que le problème du train plus vélo, c'est le problème déjà du train tout seul. Parce que moi, ça m'est arrivé de me retrouver coincé. Une fois, j'étais coincé à Gaillac. J'ai pas pu monter dans deux trains successifs. Tout simplement, pas parce qu'il y avait trop de vélos, mais parce que le train était bondé.
Tout à fait. Donc, vous n'avez pas la peine de vélo.
Voilà. Alors, moi, je vous pose la question. Je vous pose la question. Est-ce que vous auriez l'intention, par exemple, s'il fallait le faire, d'augmenter les impôts locaux au niveau de la région pour investir, pour augmenter fortement les capacités, parce que c'est multiplié par 3 ou 4 qu'il va falloir, indépendamment du vélo.
Merci. Par exemple, par rapport
indépendamment du vélo.
S'il vous plaît.
Par rapport aux pistes cyclables, oui, je suis utilisateur de vélo, vélo Toulouse exactement, le Vélib ou Vélib, je ne sais comment vous l'appelez, entre l'université, et non, mais ça change, et puis socialisant au terme de l'emploi pour la dénomination de ce concept. Mais entre l'université et chez moi, je le prends régulièrement, deux ou trois fois par jour, puisque je fais l'aller-retour, j'ai un abonnement, etc. Et l'idée, c'est, je pense sur l'avenir des minimes. J'habite au minimum, donc je pense sur l'avenir des minimes. Vous êtes sur l'avenir des minimes. Déjà, il faut traverser ce pont des minimes, vous avez la piste cyclable en plein milieu, c'est un peu vraiment, disons, je ne me sens pas du tout en sécurité, et j'ai failli me faire accrocher une fois, alors peut-être c'est moi parce que je n'étais pas très attentif, mais j'ai failli me faire accrocher, puis quand vous redescendez la piste des minimes, vous avez toutes tous ces véhicules qui sont garés, il faut que vous fassiez attention constamment aux véhicules, alors qu'on aurait pu imaginer, sur la vallée des minimes, qui est assez large, une véritable piste cyclable, c'est-à-dire, moi j'appelle une piste cyclable, disons, un espace qui est sécurisé. On va dire qu'un exemple sur le problème, c'est que j'en vois pas, c'est malheureux ça. J'ai des exemples à l'étranger, mais. Bordeaux Rouge, voilà, ce sont des véritables. Oui, voilà, Bordeaux Rouge, il y a un espace.
Pardon ? Mais c'est des nouveaux,
Alors c'est nouveau, c'est normal. Bon, je peux comprendre qu'à Bordeaux Rouge, c'est plus facile parce que c'est une nouvelle architecture, une nouvelle construction et qu'au minimum, sur l'avenue des minimes, elle date d'un certain temps. C'est pas. Voilà.
Si je peux me permettre, on est quand même pas mal hors sujet par rapport à la thématique régionale parce qu'on est vraiment sur une compétence municipale.
Oui, bon, ça c'est une question, j'aimerais que les autres candidats aussi l'abordent. Je suis représentant des parents d'élèves au lycée de gauche, et donc je suis assez content qu'il y ait des questions sur le lycée.
Plus fort.
C'est une question sur le lycée, parce que je suis représentant des parents d'élèves au lycée de gauche. J'aimerais que la région s'assure un peu des cohérences des différentes politiques qui sont menées, et qui affecte en fait le lycée. Donc des politiques qui ne sont pas forcément de sa compétence, que ce soit urbanisation, aménagement, etc., et transport également. Voilà, donc c'est un souhait. Juste un exemple précis, bon, le lycée Rive Gauche est assez dominé en équipement, garage à vélo, piste cyclable. Il n'y a pas de, par exemple, entre Saint-Simon, quartier qui va au lycée Rive Gauche, Tournefeuille, qui va aussi au lycée Rive Gauche, il n'y a pas d'équipement cyclable continu. Voilà. Donc, et ça, c'est pas forcément la compétence de la région, mais c'est peut-être la compétence de la région de se préoccuper d'une cohérence de politique.
Tu souhaites poser une question, oui.
Oui, d'accord aussi. Hein,
mais... Non, mais parfaitement d'accord. Il y a aussi la blo qui est liée à ce problème-là.
Personnellement, si je fais partie de cette association, c'est parce que, pas parce que moi j'aimerais me déplacer à vélo dans de meilleures conditions, pas d'abord pour ça en tout cas, mais parce que j'aimerais que davantage de monde choisisse le vélo seul ou en complémentarité avec les transports en commun, plutôt que la voiture, ou le deux-roues motorisé, mais surtout la voiture pour se déplacer. Et du coup, la question que j'ai envie de vous poser, que j'aimerais poser aux autres candidats aussi, c'est est-ce que vous êtes non seulement d'accord avec ce que l'association vélo vous propose là, mais également hostile à des investissements, à des contributions de la région, à des projets qui favoriseraient le recours à la voiture. Hostile à des échangeurs supplémentaires sur la rocade, hostile à une nouvelle rocade, hostile à une nouvelle autoroute entre Castres, et Toulouse hostile à de nouveaux investissements routiers pour rallier Rodez ou Auch. Voilà. Est-ce que vous êtes hostile à ce qui favorise la voiture par rapport à l'usage seul ou combiné du vélo et des transports en Toulouse?
On ne peut pas dire hostile, on peut parler de complémentarité en fait. Il faut privilégier les modes de transport doux, de sorte qu'il y ait le moins possible d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est dans le plan climat. Et ça, il faut absolument l'observer. Donc, il faut mettre le paquet, hein, pour tout ce qui est vélo, transport en commun. Mais après, le reste, les infrastructures routières, bon, je ne sais pas. Il les faudra peut-être, j'en sais rien, il faut les examiner. Mais enfin, c'est sûr qu'il faut... Sinon, désengorger le pourtour toulousain via le problème de la circulation des voitures sur la rocade. Mais parallèlement, il faut aussi, à l'intérieur de l'agglomération toulousaine, développer les modes de transport doux. Et peut-être qu'en développant les modes de transport doux, on arrivera à avoir peut-être moins de besoin de circuler en voiture et en camion autour de la rocade. Il y aura moins de voitures, du moins je l'espère. Il faut développer aussi le covoiturage, si vous voyez par là, ou les transports d'entreprise et par ramassage par minibus. Enfin, il y a plein de choses à développer dans ce sens, pour éviter qu'il y ait des voitures.
Merci. Une dernière question, je suis désolé, j'ai vu d'autres mains se lever, mais la dernière question, Julien, s'il te plaît.
Donc là,
une minute sans réponse.
Ceux qui me connaissent savent qu'au sein de l'association vélo, je m'occupe des véloroutes et voies vertes. Et je crois que vous avez répondu à côté de, vous avez répondu à côté de la plaque à la question 3 sur le développement des véloroutes et voies vertes. Vous nous promettez un plan de pistes cyclables, mais il faut savoir que un autre ministre de l'Environnement, Dominique Boinet, en 1998, a lancé un schéma national des véloroutes et voies vertes. Il est affiché dans votre dos en gris, c'est tous les axes du schéma national qui sont programmés. Et il y a une circulaire de 2001 interministérielle qui a demandé aux régions de mettre en œuvre un schéma régional des véloroutes et des voies vertes. Et la question 3.1, c'est élaborerez-vous un schéma régional des véloroutes et voies vertes? Parce qu'il faut savoir que vous avez 21 régions en France et vous en avez, je crois, 19 qui ont adopté déjà un schéma.
S'il y a un député pris,
La question, c'est donc, est-ce que vous mettrez en œuvre ce schéma avec des moyens financiers? Oui. Il y a une question avec un budget.
Ben oui, de toute façon, il faudra chiffrer, mais comme je vous ai dit en début de réunion, je ne peux rien chiffrer personnellement parce que je n'ai pas accès aux chiffres. Ce sont les services de la région auxquels je n'ai pas accès, je suis pas élue, qui peuvent les définir.
Bien, ben, je vous remercie en tout cas.
Oui.
Pour votre...
Vous avez une volonté politique?
La volonté politique, elle y est. Si ça vous suffit. Et comme je vous ai dit, si j'étais élue, je travaillerais en concertation avec vous.
pour la région dans le domaine du vélo et ensuite 15 minutes de questions-réponses.
de la salle. Vous avez la parole.
Ah bien, écoutez, ça va être très simple, très rapide et très court par rapport à cette présentation générale d'un plan d'action régional pour le vélo. Pour la simple et bonne raison que vous êtes les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents, et que si je suis là, c'est bien évidemment pour avoir à toutes et à tous vos voix, et vous convaincre, et une fois élu, peut-être tenir compte de votre avis. Hein. Vous avez l'habitude maintenant, hein, c'est comme ça que ça marche, les campagnes électorales sont toutes les mêmes, les candidats qui défilent aux tribunes sont toujours là, plein de promesses, plein d'envie, et puis une fois qu'ils sont élus, ben, on constate qu'ils n'arrivent pas forcément à mettre en adéquation leurs paroles et leurs actes. Je vous présente Gwenaël Cortès, qui est à mes côtés sur la liste du mouvement démocrate et CAP 21. Donc, ben c'est vrai que c'est très tendance en ce moment. Hein. C'est à chacun son écolo, à chacun sa tendance ou sa voix écolo. Gwen est donc représentante des adhérents du mouvement de Corinne Lepage, présente sur ma liste, puisque vous savez qu'entre les directeurs ou les présidents de filiales politiques et leurs adhérents, il y a parfois des distinctions. Ben, l'ensemble des adhérents de CAP 21 aujourd'hui sont avec le mouvement démocrate, même si leurs édiles, à un moment donné, peuvent avoir fait d'autres choix plus radicaux. Concernant le programme du mouvement démocrate pour Midi-Pyrénées, je crois qu'il s'inscrit pas uniquement au niveau du vélo, mais dans le cadre de ce que nous souhaiterions promouvoir, c'est-à-dire la création d'une agence, autorité régulatrice des transports en commun dans la région Midi-Pyrénées. Clause générale de compétence, puisqu'aujourd'hui, les régions ont encore la possibilité d'avoir une clause générale de compétence. Je ne me situe pas du tout dans la perspective d'un raccourcissement du mandat du conseiller régional. Nous avons en 2012 une étape, un rendez-vous citoyen important qui décidera de la durée de mandat des conseillers régionaux. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le gouvernement et ses alliés de l'opposition souhaitent réduire à 4 ans le mandat régional que celui-ci sera de 4 ans. Je pense donc qu'en 2012, ce grand rendez-vous citoyen que nous aurons permettra de remettre les pendules à l'heure. Je ne vais pas être plus long dans cet exposé préliminaire, puisque je préfère favoriser, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, le jeu de questions-réponses, puisque je sais qu'il a été très important durant cette première période de débat, premier temps fort entre 16h et 16h30. J'ai vu que ça pouvait créer certaines frustrations à certains et certaines d'entre vous de ne pas pouvoir poser une question, donc si vous voulez bien. Alors, je m'apprête à répondre directement à vos questions.
Philippe, on attend répondre à une question qui figurait déjà sur la feuille.
Ah, mais formidable, hein, je suis d'accord avec tout, donc. Je ne vais pas perdre du temps à répondre point par point à chacune des questions. Elles sont tout à fait pertinentes et pour être. Chacune et chacun d'entre vous, des praticiens à la fois quotidiens du vélo, ou bien alors avoir une approche, on va dire, plus systémique ou plus globale des schémas d'aménagement cyclable dans notre région, plus particulièrement notre région toulousaine, je suis sûr et certain que l'ensemble des propositions que vous formulez sont des propositions pertinentes. Maintenant, entre le moment où on décèle, où on recense des propositions pertinentes et au moment où elles sont mises en œuvre, en action, il se passe un certain temps. Vous parliez tout à l'heure de la mise en place du réseau cyclable vert. Bon, vous rappeliez que 21 des 22 régions étaient dans cette démarche-là. Bon, ce qu'on peut regretter, c'est que la région Midi-Pyrénées s'y soit mise il y a 4 mois ou 5 mois. Voilà, ça c'est un fait, c'est un constat. Après, oui, le schéma, il date d'il y a 4-5 mois. Vient d'être signé. Alors c'est fou, c'est formidable comme ces périodes électorales sont propices à une accélération de la signature de contrats, du coupage de rubans, de mea culpa de dernière minute. Bon, c'est pas, je pense, comme ça qu'on va pratiquer au mouvement démocrate avec CAP 21 quand nous serons élus régionaux. Parce que nous ne nous situons pas dans la perspective hypothétique d'être élus régionaux. Si nous présentons cette élection, c'est bien évidemment pour recueillir des suffrages et être des représentants citoyens au sein de cette assemblée régionale. Et travailler avec l'ensemble des forces vives présentes au sein de la région. Voilà. Et travailler, alors travailler, là aussi, c'est un pacte. Nous, notre pacte, ça consistera pas à dire qu'on va travailler pour les élections, à présenter des listes communes ou à avoir une intention première de travailler ensemble pour, une fois qu'on a décidé de faire ça, 5 ou 6 mois, changer la gouvernance d'organes importants en matière de transport. N'est-ce pas, M. Copé?
J'ai entendu.
Ce qui serait bien, c'est que vous répondiez à la question qu'a posée le collègue tout à l'heure sur la balance entre ce que vous allez faire, parce que vous allez couper des rubans aussi vis-à-vis des équipements routiers. Et donc, vous dites que vous êtes d'accord avec tout ce qu'on a écrit. J'imagine que vous allez dire aussi que vous êtes d'accord avec tout ce que écrivent les gens qui sont partis dans les autoroutes et des choses comme ça. Donc, nous, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez des propositions d'équipements routiers, autoroutiers
Alors, par rapport à ça, je n'ai pas une réponse, on va dire, intégriste. Je crois, et je partage le constat, comme bon nombre de candidats à cette élection régionale, que l'aménagement de notre territoire midi-pyrénéen s'est fait un petit peu de manière déséquilibrée ou de manière un petit peu trop systématique sur l'aire urbaine toulousaine. Un tiers aujourd'hui de la population de notre région réside dans la proche ceinture toulousaine. Il est vrai qu'à ce niveau-là, la mise en place de schémas de pistes cyclables ou d'interconnexions sur un réseau urbain dense peut se faire de deux manières. Soit on reconvertit une voirie existante en dédiant des espaces pour les cyclistes, soit lorsque l'on crée des voies nouvelles, on prévoit l'intégration systématique, en latéral, ou en central, pourquoi pas, de pistes cyclables supplémentaires. Je dis en central parce que ça peut aussi exister. Lorsqu'il s'agit de départir ou de répartir l'espace, il existe parfois une multimodalité qui peut exister entre deux pratiques. Je prends l'exemple de notre bus en site propre sur la RN113. Il a été jugé plus pertinent de partager. Oui, la D813. Vous ne le direz pas, président bizarre. La D813, on avait une impossibilité technique ou matérielle de réaliser les pistes cyclables à certains endroits, et il y a un partage modal entre les voies et bus et l'utilisation des lots. Vous pouvez le juger, certains trouvent que c'est pertinent, d'autres pas, mais c'est une existence. Je n'ai pas répondu suffisamment à votre question, puisque à partir du moment où il s'agit de rééquilibrer nos territoires, il s'agit de les irriguer. Les irriguer, ça peut passer à la fois, bah, peut-être par une piste cyclable, mais faire Toulouse-Castres tous les matins en piste cyclable, ça risque d'être un peu hard.
En train plus vélo, c'est très bien.
Alors, train plus vélo, ça peut être une solution. La desserte routière, je ne suis pas absolument contre la mise en place de schémas routiers de desserte sur notre territoire régional. Même si ce n'est pas forcément la solution unique. Nous n'arriverons pas à résoudre tous les problèmes d'obligation de nos territoires avec le seul vélo, le seul train. En revanche, avoir une autorité régionale de régulation des transports en commun qui fasse à la fois faire se travailler la problématique de la ligne à grande vitesse, des trains express régionaux, de la complémentarité entre le train express régional et la place ménagée sur le vélo, les interconnexions entre les réseaux urbains de transport en commun et les TER, ça c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler.
Hervé ?
Oui, bonjour. Voilà, je constate une chose, c'est qu'il y a une énorme inertie de comportement et pour l'instant, en termes de déplacement, on est encore beaucoup sur l'inertie de l'utilisation habituelle de la voiture. Or, tout changement de comportement se traduit toujours par un choc et un rejet. Or, pour éviter... ce qui fait que souvent, il n'y a pas le courage politique de faire des choses parce qu'on sait qu'il va y avoir un rejet derrière. Donc, je pense qu'il faut beaucoup accompagner les infrastructures. Ça ne suffit pas. Et en termes de communication, d'éducation, de toutes ces choses-là, il y a beaucoup de choses qui sont plus dans la tête que dans l'infrastructure. Qu'est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez un plan de communication comme ça par rapport à ce genre de choses?
Alors, mon expérience personnelle, issue de la pratique d'un mandat autre, m'a démontré que parfois, la contrainte ou l'interdiction était source de changement de comportement. Quand on contraint un automobiliste sur une voie particulièrement restreinte et qu'à côté, on a la possibilité d'avoir des transports en commun ou d'avoir des voiries dédiées au vélo qui sont beaucoup plus praticables, ben, l'automobiliste, ouais, il réfléchit à deux fois avant de prendre sa voiture. S'il sait qu'il va même plus de temps avec sa voiture qu'avec un transport en commun, il va abandonner petit à petit la voiture. Nous avons également une obligation impérieuse en tant que décideur public d'avoir à inciter ou à faciliter les autres modes de transport. C'est ce dont vous parliez, certainement. Bon, là-dessus, sur le maillage cyclable, je crois qu'on est peut-être insuffisamment performant. Peut-être par manque de budget ou par manque de choix d'arbitrage ou d'investissement.
Je voudrais juste intervenir là sur ce point-là, parce que pour moi c'est un point qui est très important par rapport aux jeunes. Sur la commune où j'habite, il y a un effort important qui s'était fait au niveau des écoles, et on voit vraiment que le travail qui est fait au niveau des écoles porte ses fruits au niveau du collège et porte ses fruits ensuite pour les jeunes, justement, pour les jeunes générations, pour vraiment bien, on va dire, prendre en charge le développement des mondes. Bien sûr, ça doit s'accompagner de structures qui aident et qui sont le support pour que justement toute cette dynamique-là d'aller vers le vélo se mette réellement en place.
Justement, ce que vous venez de répondre en disant en contraignant l'automobiliste de ne pas prendre le vélo, je suis entièrement d'accord, mais si ça ne s'accompagne pas d'une communication, vous allez vous retrouver avec tous les automobilistes furieux contre vous. Donc ma question, c'est qu'est-ce qu'il en est de la communication?
Alors, je suis certain qu'en tant que président de région et compte tenu du budget communication de la région, je trouverai l'enveloppe en partie pour communiquer à partir de cette problématique. Voilà.
Florian. Oui, moi j'ai une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, une proposition d'une agence de régie des transports pour la région. J'ai bien compris.
Non, une autorité régionale de régulation et de coordination des politiques régionales de transport, quels que soient les bassins. Je crois qu'il faut réfléchir aujourd'hui globalement à l'échelon régional. Mais la région, elle a aussi des frontières. Donc les bicyclables ou les réseaux de communication, ils doivent se faire aussi avec l'Aquitaine, le Languedoc, le Limousin, un petit peu vers là-haut. Et peut-être à travers les Pyrénées, mais ça risque d'être difficile. Alors, oui, de la traversée centrale des Pyrénées à vélo, peut-être. Très sérieusement, je crois qu'il y a ce travail macro interrégional pour lier les régions entre elles. Il y a un travail au niveau de la région entre le pôle urbain centre, qui est Toulouse et l'agglomération toulousaine, et les préfectures, sous-préfectures et l'ensemble du territoire de la région. Et il y a la coordination sur les bassins de vie existants aux quatre coins de la région. Le Ruthénois, le Cahors, etc. Bon. Il y a tout ce travail à mettre en interconnexion. Il y a du lien entre les différents acteurs des transports, et cela, à mon avis, l'organe pertinent pour le faire, c'est la région.
Et qui va siéger dans cette autorité régionale?
Alors, cette autorité régionale, à mon avis, des transports, a vocation à être composée d'élus, bien évidemment, mais également de représentants ou de spécialistes des problématiques en question.
Bon, c'est un organisme de réflexion et pas organisme, décisionnaire. Un
organisme de réflexion bipartite entre des représentants élus et des acteurs de la problématique en question. Travailler, dialoguer ensemble.
Diem ? Ouais. Vous disiez qu'on n'allait pas tout résoudre les problèmes de transport avec le vélo et le train. Alors, quels sont les autres modes de transport que vous voulez développer à part le vélo et le train ?
Alors,
la voiture, pas là ?
Alors, le vélo, le train, oui. L'automobile, le bus. Allez, je vais faire plaisir aux Toulousains, le tramway aussi, mais bon.
Vous allez inventer d'autres modes de transport, je
sais pas. Non, non,
ça m'a un peu surpris quand même. Donc ça veut dire que si vous ne voulez pas développer le train et le vélo, c'est que vous allez développer la voiture.
Il y a des endroits où vous ne pourrez pas faire autrement.
C'est la fatalité.
Non, non, c'est pas la fatalité. Vous savez, quand on est à un moment donné acteur public, on se doit aussi d'observer un territoire.
Dans quel territoire,
allez,
par exemple?
Aller par exemple dans le bassin ruthénois ou sur les hauteurs de l'Aveyron, essayer de faire passer des pistes cyclables à certains endroits, vous ne pourrez pas les faire passer. Le seul mode de dessert sera le mode de dessert routier.
Demandez aux professionnels du vélo des voies vertes.
Je me permets de vous dire que votre réponse me satisfait très peu. Vous avez un projet de véloroute Vallée du Lot.
Oui,
il existe un projet de véloroute Vallée du Lot.
Et pour avoir participé à une étude d'itinéraire et avoir pédalé dans la vallée du Lot, je vous dis que s'il y a une volonté politique et un peu de moyens financiers, ça coûtera beaucoup moins cher que de faire une que d'élargir la route, ou au moins quand on élargit la route à certains passages étroits, prévoir la piste en même temps.
D'accord.
Et dans une vallée, il y a toujours deux côtés. Donc, dans cette vallée, au fur et à mesure qu'on monte vers l'Aveyron, vers la Lozère, ça se rétrécit, il y a souvent la route d'un côté, et de l'autre côté, il y a la forêt, avec des pistes forestières. Donc, moyen de trouver des cheminements aménageables pour faire un itinéraire vélo.
Oui, ça, j'en suis entièrement d'accord. Mais
ça nécessite un engagement, une volonté politique et un engagement financier de la région.
Mais
et c'est justement une de ces compétences possibles.
Je sais bien, et j'abandonne totalement en votre sens. Le problème n'est pas là, c'est que je n'oppose pas un mode de transport par rapport à un autre. Je dis qu'il y a une complémentarité. La retraitée de 70 balais qui vit en secteur isolé dans une ferme sur les hauteurs du Ruthénois, ben, vous serez pour lui mettre une piste cyclable devant chez elle, elle ne descendra pas à vélo pour aller faire ses courses.
Je m'excuse, mon interrogation est liée au développement régional.
Enfin, elle descendra peut-être à vélo, elle remontera plus
vite. Le vélotourisme, je crois qu'il faut qu'on nous disions à tous les élus ici présents, ou candidats à l'élection, le vélotourisme est un créateur d'emplois en zone rurale défavorisée et en dépression et en reconversion. Bon, vous savez qu'un touriste itinérant dépense en moyenne 80 euros par jour.
J'avais lu 60.
Bon. Ça dépendra de sa nationalité souvent et de son âge, mais de son mode d'hébergement. Mais donc c'est réellement créateur d'emplois. Et je suis surpris que vous ne soyez pas convaincu de ça, sachant par exemple que grâce à des aides du conseil régional, 4 emplois aidés par la région ont été créés à l'écluse de Castanet pour ouvrir une buvette-restaurant qui sert à la fois à la population locale et aux cyclistes randonneurs, dont vous donnez un peu l'impression de croire qu'ils n'ont aucun.
Alors, les aides de la région s'inscrivaient plutôt dans un dispositif d'économie sociale et solidaire pour des métiers de la restauration et du tourisme itinérant. C'est vrai qu'avec la proximité immédiate des pistes cyclables le long du canal, puisque là on est vraiment sur le cyclisme vert non urbain, il y a cette complémentarité par rapport au tourisme et à l'économie. Mais là en l'occurrence, il s'agissait d'un projet d'économie sociale et solidaire qui était autour de la maison éclusière.
C'est multiplié, c'est transposable au fin fond de l'Aveyron.
Ah oui.
Une question, Thomas.
Oui, ce qui m'interroge un peu dans vos réponses, c'est que vous semblez réfléchir comme si on était en Sierra Leone ou au Liberia, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de route. Et le constat que je fais aujourd'hui, c'est que la circulation automobile est possible partout dans la région, et que d'après moi, elle est même largement excédentaire en valeur absolue par rapport à ce qu'elle devrait être. Autrement dit, c'est pour ça que je pose cette question sur est-ce que vous êtes aussi hostile à de nouveaux échangeurs, à de nouvelles autoroutes, etc. C'est parce que pour moi, il ne s'agit pas de créer la possibilité d'aller de Castres à Toulouse en voiture. Il y a belle lurette qu'elle existe, cette possibilité. Ou de desservir la ferme de la mamie dans l'Aveyron. Il y a belle lurette qu'elle a sa route, c'est que c'est plus un chemin de terre ou une piste. Donc, je ne comprends pas votre réponse. On est en train de parler de développement par rapport à un existant qui est fort. On est dans un pays développé où il y a déjà beaucoup d'infrastructures. Le constat qui est le mien, c'est qu'il y a beaucoup trop d'infrastructures routières et très insuffisamment d'infrastructures ferroviaires et cyclables. Voilà. Et de services. Pour les lignes de car, par exemple, c'est pas d'abord de l'infrastructure, c'est d'abord de l'offre. Vous n'aurez pas les moyens de favoriser le financement des petits aéroports, de créer, en subventionnant ces projets de nouvelles autoroutes un peu partout, de créer une nouvelle LGV, de faire tourner de nouveaux TER et de subventionner les cars. Vous n'aurez jamais des finances pour faire tout ça. Il y a des choix à opérer.
Alors, sur les choix, excuse-moi, Mouane, tu vas répondre. Sur les choix opérés, c'est une volonté politique. Quand vous voulez, par exemple, avoir une politique ambitieuse en matière de transport en commun, il faut être capable de mettre en avant une taxe additionnelle ou parafiscale ou fiscale appuyée sur la fiscalité locale. Des communes le font, des intercommunalités le font, d'autres non. Certaines collectivités, notamment quand elles sont passées en communauté urbaine, ont fait le choix de maintenir une progressivité de leur fiscalité locale pour pouvoir abonder sur un budget transport. D'autres, quand elles sont passées en communauté urbaine, ont communiqué sur la baisse des impôts locaux puisqu'on voulait rester au même niveau.
Nous, dans notre communauté d'agglomération Sicoval, on a pour notre part abondé notre budget de transport et nous l'avons doublé. Je parle sous le contrôle du président.
Vous êtes autorisé à le doubler.
Nous sommes autorisés à le doubler, nous l'avons fait.
Voilà. Vous vous êtes autorisé à le doubler. Ensuite, il y a un blocage qui fait que, de fait, la contribution complémentaire n'est pas versée.
Oui, parce qu'il y a un non-respect contractuel des engagements.
Tout à fait.
Moi, je voulais intervenir sur le Nord Toulousain, c'est un territoire que je connais bien. Et nous avons comme problématique d'avoir effectivement un réseau routier qui existe, vous avez raison, il existe. On a pas mal de routes qui vont entre le Nord Toulousain et l'agglomération. Ce qu'il y a, c'est qu'elles sont saturées et que les transports en commun n'ont pas la possibilité de se développer sur cette structure-là. Pourquoi ? Parce qu'elles sont coincées dans le flux de voitures. Donc, la seule solution, on est bien d'accord, ça serait qu'il y ait un transport en commun, site propre. Transport en commun, site propre, vous faites tout.
Seul, sans route supplémentaire.
Ah, mais à ce moment-là, il faut vider une route. Vous allez avoir toute une problématique. Vous allez quand même avoir une problématique par rapport aux commerçants, par rapport aux utilisateurs. Se déplacer, il faut des fois, parfois, faire quand même... Je ne suis pas... Voilà, j'abonde le fait qu'il ne faut pas être non plus être intégré. Sur ce, je suis tout à fait d'accord que la priorité, pour moi, ça doit effectivement être le transport en commun et le transport en développement. Si on donne la priorisation, comme il a été fait pendant ces 30-40 dernières années, sur la voiture, on va au mur. On est bien d'accord, on y est déjà dans le mur, par rapport à la circulation sur l'agglomération toulousaine.
J'ai pas dit qu'il fallait pas construire de nouvelles infrastructures pour ces bus, hein. Je suis bien d'accord pour la couper, sans en profiter pour faire une route le long, c'est ça que je dis.
Ça passe par... Ce que je voulais rajouter aussi, c'est par rapport à la priorisation. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est amener dans les zones urbaines le fait que les cyclistes soient prioritaires par rapport aux voitures quand c'est, et on va dire, quand on est sur une zone à petite vitesse, à faible vitesse. Il me semble que c'est intéressant de justement de casser le fait que la voiture est reine et que la voiture a droit sur tout et qu'au contraire, prioriser les cyclistes. Par contre, lorsque les vitesses sont plus importantes, réfléchir vraiment à une sécurisation des traversées. Voilà, c'est deux points, on va dire, techniques par rapport à l'aménagement sur lequel je voulais...
Merci. Sur les aménagements, j'aimerais rajouter par rapport à ce que vient de dire Gwen, quelque chose qui est important, c'est la lisibilité à un moment donné de l'espace dédié aux cyclistes. Sur nos aménagements urbains, on a parfois des ruptures importantes, outre les ruptures entre les pistes cyclables qui s'arrêtent et qui débouchent d'une part et celles qui reprennent à un autre endroit, sur le traitement et le choix des matériaux. À un moment donné, la lisibilité de l'itinéraire cycliste, c'est quelque chose d'important. Je crois qu'on aura tout intérêt à mettre en place une charte régionale de ce qu'est l'aménagement cyclable. De telle sorte à ce qu'on n'ait pas, à un moment donné, des espaces dédiés de 40 cm, pas en gris, un autre endroit, pas en vert, etc. C'est important. Et par rapport aux aménagements, toujours, pareil que Gwen, ça tombe bien, on est sur la même liste. Je souhaite également que soit mis en avant cette continuité cyclable en priorisation. C'est-à-dire quand vous avez des changements de surface, etc., très clairement, qu'on lise visuellement la priorité pour vélo. Ça, c'est quelque chose...
C'est dommage que ça n'a pas été fait dans une commune que vous connaissez bien.
Castanet. On est en train d'y travailler.
Oui, mais enfin, c'est vrai, mais il y a deux ans, c'est vraiment dommage. J'avais une autre question.
À quel endroit, madame Sarah ?
La piste cyclable au niveau de la jardinerie, par exemple, et des deux sorties de... Ce n'est pas la région.
Alors,
la
le maître... Non. Le maître d'ouvrage n'était pas très loin de l'endroit où vous êtes assis. À l'époque, il n'était pas président, c'était une maîtrise d'ouvrage qui était au SMTC. En revanche, je vous invite à traverser la 113, la D813, c'est un sujet là toujours, et à monter sur l'avenue du Docteur de Lerme,
oui,
que vous voulez aménager.
Eh bien, vous ne la faites pas beaucoup à vélo, il faut s'arrêter. Un vélo n'est pas prioritaire sur toutes les entrées de l'île.
Alors, rendez-vous sur la programmation 2010-2011, comme vous le savez, puisque prévoir, c'est anticiper et mettre les investissements qu'il faut en face. Sur 2010-2011, le maillage cyclable entre le haut et le bas de la très jolie commune de Castanet-aux-Lambes qui intéresse tout le monde ici sera fait dès cette année.
Et sur la piste cyclable faite, le cycliste doit s'arrêter dès qu'il a une entrée de propriété privée.
Oui.
Et ça, c'est pas la même.
Ça, c'est vrai.
Monsieur.
Alors, moi, j'ai plusieurs remarques à faire. Les pistes cyclables, c'est très bien. Moi, j'habite le quartier de Castellardi et je vais souvent du côté de l'aéroport, etc. Tout autour de l'aéroport, on a fait des pistes cyclables. Mais je peux vous dire une chose, c'est plus difficile de se repérer sur des pistes cyclables qu'en forêt. Il n'y a aucune indication du longtemps. Alors, on est obligé, quand on peut, de se pencher au bord de la route pour voir l'autoroute à côté où ils indiquent telle direction, alors on va dans telle direction. Il n'y a aucun panneau de signalisation. Alors, on fait des pistes cyclables, c'est pareil. Un autre endroit, même problème, dans le temps, quand il y avait feu la Camif, j'allais souvent à la Camif à vélo, par la route de Foix, bien entendu, sans pistes cyclables, sans rien, mais ça je m'en fous, je coexiste avec les automobiles, mais par contre, je pouvais y aller. Mais depuis que l'on a fait une autoroute, là, je n'ai plus le droit d'y aller. Je ne sais pas par où je dois passer pour y aller. Bien sûr, je trouve les déviations par... Mais il n'y a aucun endroit où l'on dit cycliste pour aller vers là. Bon, si je veux aller à Clermont-le-Fort ou ailleurs, en passant par le rond-point, là, je ne sais pas par où y aller. Il n'y a aucune indication. On dévie, on empêche les cyclistes de passer à l'endroit, mais on ne leur dit pas passer par là. Alors, je manque de signalisation et de.
Une dernière réponse.
C'est juste qu'il faut filer le GPS.
Alors, si c'est ma dernière réponse, je n'abuserai pas du temps, puisque je crois qu'il y a un timing très, très imparti. Je souhaiterais profiter de la remarque de monsieur. Peut-être, bon, la signalétique, certes, un effort sera à mener, mais j'aimerais rebondir sur des aménagements toujours, et sur ce, en quoi la région peut intervenir. Aménager une piste cyclable, une fois sur 10, c'est bitumé. Bitumé, c'est imperméabilisé. Imperméabilisé, c'est à un moment donné agir ou infléchir sur un écosystème existant, préexistant. Aujourd'hui, le surcoût que représente un revêtement de sol perméable à un revêtement de sol imperméable, c'est quelque chose qui, bien souvent, incite les collectivités locales à investir le minimum. Puisque le surcoût sur cette non-imperméabilisation de surface, c'est quelque chose qui est, on va dire, encore aujourd'hui assez important. Je crois qu'à travers la création de... Alors, vous allez dire, on fait beaucoup de maisons au mouvement démocrate. Je vous ai parlé d'une agence régionale des transports en commun. Je vous parle maintenant d'une agence régionale de l'eau. Je crois qu'au sein de cette agence régionale de l'eau, un levier particulièrement important devra être pris en compte par rapport à l'imperméabilisation des surfaces. Et je crois que cette agence régionale de l'eau aura vocation à intervenir sur ce coût d'investissement contre les imperméabilisations de surfaces. Voilà. C'était bien le dernier mot pour montrer que tout est lié et que l'organe de référence, pour mettre un petit peu en musique, pour faire se parler tous ces acteurs d'un même territoire, c'est peut-être la région. Dernière phrase. Dans la pratique de la gouvernance que j'ai au niveau de ma municipalité, Madame Mardou, dans la pratique de la gouvernance que j'ai, je n'ai pas de problème à me retourner vers celles et ceux qui sont les plus compétents dans un domaine. J'en veux pour preuve que le schéma à la fois piéton et cyclable de la mairie de Castanet et le schéma d'organisation en cohérence avec le Cycloval était porté à l'époque par un représentant du groupe des Verts qui avait été mandaté à cet effet au sein de la municipalité. Donc quand on est intelligent, quand on veut avancer tous ensemble, on est capable de le faire.
Voilà, c'était ma conclusion.
Merci bien.
Merci. Merci. Je suis désolé, au revoir. Je n'ai pas auditionné les autres candidats présents parce que j'ai un programme qui m'amène un petit peu aux quatre coins de la région. La réponse est que c'est ma spécialiste qui le fera bien sûr.
Très rapidement, si possible, on publie tout dans le même temps.
Okay.
Voilà. Bon, merci. Nous accueillons maintenant les représentants de la liste de Martin Nagy. Donc Thierry Sault et Didier. Oui. Ça les passe. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Vous connaissez les règles du jeu, donc je ne les rappelle pas. Donc la parole est à vous pour une dizaine de minutes. Ensuite, on passera aux questions réponses de la salle.
Merci à toi, Xavier. Oui, pas tellement comment commencer parce que le rôle qui vous est imparti est un petit peu particulier puisque vous avez effectivement deux candidats face à vous, mais parmi les deux candidats, donc un conseiller régional sortant, et donc qui ne veut pas ne pas inscrire les réponses aux questions et les projets dans un certain nombre d'actions d'ores et déjà engagées et que vous jugez bonnes ou mauvaises, un certain nombre d'actions en cours. Et puis donc, forcément, de ces actions engagées, de ces actions en cours, un certain nombre de propositions. Mais vous dire tout de suite que les propositions que nous formulerons plus abondamment dans les semaines de campagne qui viennent sont, pour la grande majeure partie, issues, bien entendu, des éléments du bilan que nous estimons honnête de la mandature qui s'achève. D'une part, peut-être dire que la région... par ses engagements, démontre avoir pris la mesure de la nécessité d'organiser des déplacements et de favoriser les déplacements alternatifs à la voiture, puisque nous ne pouvons ignorer que le transport est le premier émetteur de CO2 et qu'une des questions qui nous est posée, c'est pas simplement le vélo, pour pratiquer le vélo, mais c'est aussi la question de l'émission de gaz à effet de serre, c'est aussi la question du climat, c'est aussi la question environnementale au sens large. La région intervient en fonction des compétences qui sont les siennes, parfois par extension de ses compétences, et parfois on tord un petit peu le cou aux compétences pour pouvoir aller sur des engagements sur lesquels nous n'aurions pas naturellement obligation, mais quand il n'y a pas forcément obligation, il peut y avoir et il y a volonté politique d'aller. Compétence, les TER, le train, peut-être quelques chiffres, de 5 à 12 millions de voyages entre 2000 et 2009 sur un réseau régional qui n'existerait plus si les régions n'avaient pas engagé les actions qu'elles ont engagées. Donc je veux y voir non pas une réponse niant l'existence de la route ou de la voiture, mais une volonté forte en tous les cas de mode alternatif. Un plan rail qui est en cours de réalisation et qui n'a pas attendu l'approche des élections régionales pour être engagé. 500 millions d'euros empruntés par le conseil régional, 330 millions apportés par les partenaires pour un plan rail de rénovation du réseau de 830 millions dont on sait qu'il ne permettra pas autre chose que de stabiliser et de permettre l'utilisation du réseau régional tel qu'il est, puisqu'on a un réseau, quand l'État vous transfère une compétence, très souvent, il vous transfère bien sûr les moyens qui vont avec, mais sur une compétence dont la situation est relativement délabrée, on peut se référer au lycée à l'époque, on peut se référer au rail et au TER plus récemment, je crois que c'était 2002 le transfert de la compétence. En regardant Didier, je m'aperçois qu'on ne s'est pas présenté du tout. Je vais faire une parenthèse immédiate. Didier, oui.
Je dirige un organisme régional qui intervient dans le domaine du développement durable.
Voilà. Donc nous, on ne créera pas beaucoup d'agences, puisque Didier dirige l'ARP, l'Agence régionale pour l'environnement.
Donc on va d'avoir une agence transport, une agence sur l'eau, il peut y avoir une agence pour l'environnement, mais elle existe déjà.
Voilà, et Thierry Suot, donc je suis conseiller régional, et puis je sais que certains s'intéressaient à une autre casquette qui est la mienne, puisque nous avons eu un échange épistolaire, c'est Gilles Dadou d'ailleurs, conseiller municipal délégué à l'environnement et à l'agenda 21 vert de l'équipe qui vous avait répondu sur les liaisons cyclables ou les voies vertes, effectivement, et c'est à vous que nous avions répondu, donc par rapport à la ligne de portée sur Garonne, et puis au-delà, puisque par le Plain-Saguel et le pont de Plain-Saguel, rallier le parc du Confluent, la zone de la Trois-Falgardes, donc les franchissements Ariège et Garonne, mais là, peut-être après cette rencontre, le maire de portée pourra reprendre quelques minutes un échange, si vous le souhaitez. Voilà, donc, des engagements forts. 350 millions d'euros, c'est le renouvellement, la modernisation des trains. Hein, donc quand on parle tout de suite effectivement de mode alternatif, on ne parle pas en bagatelle, on parle quand même d'engagement lourd, d'engagement fort, et ça je crois que ça mérite d'être signalé. Les autocars, parce qu'il est trop rarement rappelé que la région gère aussi un parc d'autocars, ou du moins des transports en car, qui sont aussi un mode alternatif à la voiture, le transport collectif comme alternative au transport plus individuel, plus particulier, le véhicule personnel, et donc le car qui permet d'aller là où, bien entendu, soit les réseaux rails ne permettent pas d'aller, soit qui se substitue, puisque nous avons un exploitant, nous avons des conditions d'exploitation, nous avons un cahier des charges qui n'est pas toujours respecté, et vous le savez probablement, en tous les cas moi je le sais, les restes à quai, ça arrive aussi, les difficultés de transport en train, je dirais qu'on est aussi victime parfois du succès, de l'afflux vers les gares, et il faut à la fois s'en satisfaire et puis tout faire pour améliorer. L'aide aux collectivités qui s'occupe aussi de véhicules électriques ou bien en GNV, et ici au SMTC a pu par exemple bénéficier d'aide de la région. Aide à la mobilité à Toulouse, je crois qu'en matière d'autopartage, il y a eu aussi un certain nombre d'engagements de la région. Des actions que l'ARP pour la région partage sur les plans de déplacement entreprise ou plans de déplacement d'administration. Plan de déplacement école, je peux rappeler simplement le vélobus de Tournefeuille, qui a été une des premières initiatives de la sorte. Et puis, bien entendu, une participation, un échange, mais un soutien aussi aux acteurs associatifs, parce que nous pensons que la démocratie, que la vie politique, elle vit aussi par les acteurs associatifs. Et puis que souvent, il y a des idées dans le monde associatif, chez les usagers, chez les utilisateurs, chez ceux qui vivent ici ou là, et ce ne sont pas forcément les idées que nos perceptions politiques nous permettraient d'avoir. Je veux citer quand même aussi que nous ne partons pas sans la connaissance, parce que connaître, c'est aussi mieux décider, mieux proposer, et je veux citer dans le domaine large de l'environnement un certain nombre d'observatoires, hein, l'ORDIMI pour les déchets industriels, et puis particulièrement donc l'OREMI, l'Observatoire de l'énergie, c'est lui qui nous dit par ses études aussi les évolutions de production, et le constat que nos efforts peuvent peser quand même sur les limitations de production de gaz à effet de serre et de CO2 en particulier, que l'on parle de l'habitat ou ici du transport. Donc je crois que ça méritait d'être cité. Puis l'opérateur qui est là, qui mène des actions en propre, qui est financé à 80% par la région, qui accueille des associations, et puis qui sont autonomes, qui ont liberté de parole et de pensée. Et puis un certain nombre donc d'actions. Je pense aussi au comité régional du tourisme, puisqu'il était dit tout à l'heure effectivement que la question du tourisme est importante et que la question du vélo et des voies vertes permettent effectivement de créer des emplois. Et bien entendu, s'il y a un engagement fort et majeur de la collectivité, mais qui n'est pas le débat proprement parlé, c'est bien entendu aussi l'emploi, la question sociale, la question de l'emploi, puis l'avantage de ces emplois-ci, comme ceux des filières bois, des filières courtes que l'on peut mettre en place, c'est qu'ils ne sont pas délocalisables, et donc ça a aussi un avantage en matière d'évolution de la société. Voici quelques éléments donc de l'action. Nous intervenons en matière d'investissement, le lieu où nous sommes ici a bénéficié d'une aide de la région, aux côtés du Grand Toulouse, du Conseil Général, de certains donateurs, et puis il ne faut peut-être pas oublier aussi VNF qui aide en pratiquant un loyer, je crois, relativement respectable et abordable, mais 16 000 euros de la région, donc à parité avec le département et le Grand Toulouse, la communauté d'agglomération à l'époque. je veux le dire parce qu'on ne réinvente pas toujours tout à chaque fois qu'on débat avec une association. Je vous remercie du débat, je vous remercie d'organiser, mais on ne peut pas réinventer non plus ce qui se fait. Je veux bien que les sortants aient plus de facilité à avoir des chiffres que ceux qui n'ont pas fréquenté les arcanes de la région. Mais je veux dire aussi qu'en allant simplement sur le site internet des institutions où l'on veut se présenter, on arrive à récupérer un certain nombre d'éléments qui permettent de poser les débats. Les investissements 2004-2007, pour dire que ça remonte à loin, je ne m'inscris pas dans ce débat-ci, simplement dans ce mandat-ci, 2,6 millions d'euros auprès du Conseil Général du Tarn-et-Garonne pour le canal des deux mers. Donc même s'il n'y a pas de schéma régional des voies vertes, il y a bien des actions qui, sur projet, sur proposition, sur engagement aux côtés des partenaires, permettent de fixer une volonté sur ces voies vertes, et donc que tout ne se résume pas au schéma, et effectivement, on pourra, vous le regretterez probablement, que ce schéma n'ait été enclenché, Martin Malvy a écrit en 2009 sur cet accord, en demandant qu'il respecte ce schéma, à la fois la prise en compte des sites remarquables de Midi-Pyrénées, à la fois la prise en compte des schémas départementaux, et puis pour être vice-président de la communauté d'agglomération du Murtin, je puis vous dire que tous les territoires ne sont pas dotés aujourd'hui non plus de leur schéma, de leur approche territoriale, et que nous pilotons aussi ici ou là des approches territoriales, donc il faut aussi une complémentarité d'échelle. La région englobe, parce qu'elle est le territoire le plus large, mais elle n'englobe pas toujours d'autorité, elle ne dit pas toujours aux autres ce que les autres devraient faire, même si quand elle ne peut pas dire, quand elle n'a pas la compétence, eh bien elle essaye parfois par l'incitation d'inciter à faire, mais c'est les deux manières d'agir de la région, compétence, obligation et incitation par des aides, des subventions, des soutiens, et puis tout ce qui relève de la pédagogie, de l'approche culturelle, d'évolution de nos mentalités. Voici quelques éléments encore. En fonctionnement, nous sommes là, ne réinventons pas non plus, allons peut-être plus loin. Les emplois associatifs régionaux, alors on pourra me dire que c'est une entrée qui n'est pas celle du vélo, sauf que nous en avons deux, ici, documentalistes et chargés de projet. Donc, deux emplois régionaux associatifs. Donc participation de la région au fonctionnement en respectant l'autonomie, la liberté de penser, de taquiner le conseiller régional ou les candidats de l'association et des membres qui sont ici présents. Donc un soutien à la démocratie tout simplement, à la vie associative. Et c'est bien. Et on se taquine déjà entre nous de toute façon. Bonjour Samuel. Plus d'une minute pour les 10 premières.
Oui, voilà.
Et bien, en une minute, je vais dire aussi qu'il y a des subventions aux événements, Tolosa Vélo par exemple, ou encore des subventions aux associations. Donc on ne réinventera pas non plus, par exemple, la campagne Allons-y à vélo, puisque je sais que Martin a reçu dernièrement un courrier de remerciements, comme tous les autres, je suppose, mais qui marque notre engagement. Et d'ailleurs, je vous remercie de remercier, parce que parfois, on n'a même pas de nouvelles, comme quand on engage une aide. Et je crois que la relation entre nous, elle est aussi calée là-dessus. Un mot sur le contexte institutionnel. Je disais que les collectivités, elles ont leur propre autonomie. Moi, je suis maire, je ne voudrais pas que la région me dise comment je fais des pistes cyclables dans ma commune. Mais je veux bien qu'il y ait des lieux de partenariat et de rencontre pour faire ensemble, à la gare de Portée-sur-Garonne, par exemple, et c'est le cas. Mais à côté de ça, il y a aussi une réforme en cours. Et on ne peut oublier que dans les années qui viennent, les régions n'auront plus de fiscalité directe, donc elles ne voteront plus l'impôt, mais elles seront tributaires des dotations nationales de l'État, ce qui n'est pas simple pour une collectivité. Et deuxièmement, les réformes territoriales, si elles suppriment la clause générale de compétence, il faudra que toutes les questions qu'on se pose et toutes les réponses qu'on apporte soient revisitées à l'aune de cette suppression, parce que ça voudra dire que tous les terrains sur lesquels nous allons volontairement, mais qui ne sont pas dans le cadre de compétences, nous ne pourrons plus y aller. Et donc ça veut dire qu'une partie des questions que vous avez posées trouvent déjà leur réponse, et que ceux qui veulent la suppression de la clause générale de compétences devraient d'abord vous dire que la moitié des questions, au moins, n'ont pas d'intérêt, puisque les régions ne pourront plus y aller. Donc ceci devrait se démasquer. Moi, je n'en fais pas partie, donc je le disais avec un petit peu de virulence, mais il faut faire de la politique aussi.
Bien. Je me permettrai de poser la première question. En fait, vous nous annoncez pas mal de chiffres, de projets connexes au vélo, et donc vous dites qu'ils concourent au vélo. Au demeurant, il est parfois intéressant d'avoir des budgets clairement alloués et dédiés à un poste, en l'occurrence le vélo. Donc ma question sera, est-ce que vous êtes prêt à dédier un budget chiffré au vélo et aux pistes cyclables sur la région? Et pour exemple, je vous citerai en fait
un petit pays très loin d'ici qui a à peu près 4 millions d'habitants, qui est particulièrement rural et avec un relief très prononcé, donc comme on peut l'avoir sur notre région. Donc c'est pour ça que je me permets de faire le parallèle, et qui a voté en mars 2009 $50 millions, 40 millions d'euros, 35 millions d'euros, 50 millions de dollars pour des pistes cyclables, dédiées aux pistes cyclables, avec pour motivation le développement du tourisme sur son territoire, ayant noté et mesuré que les touristes cyclistes dépensaient, internationaux, nationaux et internationaux, dépensaient 60% de plus individuellement qu'un touriste en automobile ou autre. Donc, comment ? Oui, Nouvelle-Zélande. Et donc ils ont décidé 35 millions de dollars. Donc la question est, qu'est-ce qu'on va faire ?
Non, enfin, on n'aura pas une entrée budgétaire vélo. Donc il n'y aura pas. Pourquoi pas ? Parce qu'il n'y a pas, une compétence d'organisation de la région vélo. Mais nous pouvons tout à fait, et c'est l'eau d'un agenda 21 par exemple. Vous n'avez pas un budget agenda 21, mais vous pouvez recouper dans une politique transversale par rapport aux compétences de la collectivité, quelle qu'elle soit. Le maire pourrait faire la même réponse. Vous pouvez recouper les efforts qui sont faits pour le vélo, et on peut, à partir de ces efforts faits pour le vélo, dire qu'il faut effectivement améliorer l'effort fait en faveur du vélo. Et on retrouvera, à travers les politiques d'aménagement du territoire, on pourra retrouver un certain nombre d'éléments sur les voies vertes, tout ce qui a pu être fait sur le canal, qui pourrait être encore mieux fait sur le canal des deux mers. On peut trouver à travers les emplois associatifs régionaux et cette politique particulière ce qui relève du vélo et là où nous pourrions doter sur les itinéraires touristiques, sur un certain nombre de sites de soutien humain. Donc on peut globaliser, si j'ose dire, et ça je crois qu'un technicien du budget saurait le faire, globaliser les budgets qui sont engagés pour essayer d'avoir une lisibilité au fond.
Mais c'est ça. Mais vous vous engagez à avoir une lisibilité budgétaire sur les montants alloués au vélo au travers de notre politique.
Je m'engage. Moi, je suis toujours très prudent parce que je ne suis pas le président du conseil régional. Je suis un vulgaire conseiller régional parmi d'autres. Moi, ce que je dis, c'est que c'est absolument dans la philosophie qui sous-tend notre action que de donner de la lisibilité à nos actions. Et il n'y a aucun problème pour que nous puissions faire apparaître sur un document qui servirait de référence l'ensemble des montants qui sont affectés au vélo. Le conseiller régional Thierry Suot renverra immédiatement cette adresse au président Mali parce que ça fait partie des choses qui sont relativement simples à calculer, même s'il y a des domaines après plus.
C'est vrai que c'est un point qui va devenir de plus en plus important sur le sujet vélo, mais sur d'autres sujets. Parce que nous sommes de plus en plus amenés à mettre en place des actions qui sont des actions intégrées. On met en place des agendas 21. Et dans un agenda 21, on essaie de faire en sorte, et il y en a beaucoup, on dit Pyrénées, on essaie de faire en sorte qu'il y ait un volet transport et un volet transport venu. Mais ça fait partie d'un tout. On s'engage de plus en plus dans la préparation de plans climat territoriaux. On fait partie des régions où on a le plus de plans climat territoriaux expérimentaux. Mais c'est pareil. C'est évident qu'il va y avoir et qu'il y a des volets transport et des volets transport doux, mais ils sont pas distingués du reste. Plan de déplacement entreprise, c'est la même chose. On en a une quantité assez importante. On va peut-être parler de lycée. On essaie d'encourager la préparation d'agenda 21 dans les lycées. On a d'ailleurs été très surpris parce qu'en fait, il y a beaucoup de lycées qui rentrent dans ces démarches. Il y a sûrement un volet transport. Mais en termes de comptabilité, il faut effectivement mettre en place un outil pour identifier quelles sont les dépenses consacrées au vélo. La région l'a fait il y a deux ans sur quelque chose qui est peut-être plus courant dans l'environnement, c'est sur l'eau. La région n'avait pas une visibilité de l'ensemble de ses dépenses dans le domaine de l'eau. Quand le travail a été fait, c'était étonnant. C'était étonnant. 15 millions d'euros sur l'ensemble des politiques, environnement, agriculture. C'est quelque chose qui va sûrement être de plus important à mettre en place.
Merci. Question. Philippe.
Non, c'est juste une petite mise au point parce que vous êtes un peu approprié la création des bus cyclistes.
Le soutien.
Non, même pas. Je pense que la région n'était vraiment pour rien. Alors je reconnais que depuis, il y a eu de l'aide au niveau de l'ARP pour d'autres projets, et la création de matériel pédagogique, etc. Mais pour Tournefeuille, je pense qu'il n'y avait rien. Voilà. Donc c'est juste une mise au point. Ajuster la communication.
Je les connais. Effectivement, l'initiative de Tournefeuille est partie d'une association de parents d'élèves. elle a été relayée par la commune de Tournefeuille et un organisme proche de la région a mis en place un kit
de manière à suivre, de manière à pouvoir juger, enfin, pour un terme de l'outil. Très, 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 des difficultés, n'ont pas été aplanies, concernant justement le très petit vélo. J'entends par là que c'est moins des points d'accrochage, pas seulement dans les gares, mais dans les trains. Et là, c'était un des points très négatifs par rapport aux années que nous avons vécues. Et ça a été très mal vécu par les cyclistes. Donc, je voudrais, et vous savez que les manquements de la SNCF par rapport à d'autres problèmes, pas seulement par rapport à ce problème du trait du vélo, mais par rapport à la régularité des transports. Bon, je me félicite d'ailleurs que le concierge a enfin décidé de saisir le tribunal administratif par rapport à tous ces autres problèmes. Bon, je voudrais que vous preniez des engagements forts pour imposer à la SNCF, hein, notamment le nombre d'augmenter de manière sensible le nombre de points d'accrochage des vélos, car ce qui manque le plus de cyclistes, c'est pas seulement dans les gares, je parle de stationnement, c'est dans les trains. On a des difficultés, soit, et je parle pour moi, bon, nous organisons des débats à la vélo, c'est très bien le matin, le dimanche matin, on va avoir toujours de la place. Mais au retour, on n'a pas, on rencontre d'énormes difficultés pour accrocher le vélo. Il n'y a pas de place pour les cyclistes. Donc je voudrais que vous vous engagiez fermement pour imposer à la SNCF d'augmenter le nombre de points d'accrochage dans les voitures, ou même éventuellement de mettre en place une voiture destinée aux cyclistes. Merci. J'attends votre réponse.
Pour la voiture destinée aux cyclistes, je ne répondrai pas oui parce que ce n'était pas dans les tuyaux. Sur le reste, par contre, une parenthèse sur l'accès aux gares qui est aussi accidentogène et dangereux, et ça c'est plus le maire qui parle en disant qu'il y a des efforts collectifs à faire par rapport à ménager la capacité d'accès aux gares. Nous revenons à la vue de la gare à portée sur Garonne, mais ça donc on a dit que c'est l'hôpital. Voilà. L'autre aspect, c'est au niveau de laisser, j'arrive au train après, hein, mais de laisser son vélo en gare. Donc il y a une expérimentation qui est lancée. Alors, ne me demandez pas exactement à l'heure près où on en est, mais elle est lancée sur la ligne Toulouse-Castres-Mazamet par rapport donc, au problème du stockage du vélo en gare. Bon, je dis communément à des gens qui sont moins avertis de vélo que vous, que le tout n'est pas de laisser son vélo le matin, c'est de le retrouver le soir, quoi. Donc il faut effectivement qu'on favorise cette capacité de stockage du vélo en gare. Alors j'ai plus les chiffres sous les yeux, mais il y a peut-être 300 points d'accroche sur ces gares qui sont prévus sur cette ligne-là. C'est expérimental sur l'axe. Et puis quelques gares, non pas l'axe, mais quelques gares d'un autre axe sont concernées, puisque Saint-Agne, portée sur Garonne et Muret, vont faire l'objet aussi d'une approche expérimentale par rapport au stockage de vélos en gare. Donc là, vous avez des éléments très concrets. C'est en cours. Pour vous dire, à Portée, ce n'est pas encore fait, parce qu'à Portée-Muret, on revoit les gares, les accès bus, etc. Donc ça sera pris dans le package. Mais c'est lancé, la décision est prise, les financements sont engagés. L'autre aspect, c'est un parc sous le parking EFIA, donc à Matabiau. Alors là, je crois que ce sont 680 places, et c'est gardienné. Donc ça, c'est un engagement qui est pris, qui est engagé aussi. Hein, donc le fait de laisser son vélo pour le prendre en train, ça c'est fait. Prendre son vélo dans le train,
c'est fait, c'est-à-dire
c'est engagé.
C'est acté, quoi.
Oui, la volonté politique et l'acte politique a été commis.
Donc il y aura un garage de 680 places.
Oui, vélo. Ça, ce sont des actes décidés qui passent en commission permanente. Écoutez, il faudrait que je ressorte mes papiers plus précisément parce que c'est la délicatesse du sortant, il faut qu'ils soient précis. En gare Matabiau, proposition d'aménagement de vélostation sous le parking AFIA, 680 places gardiennées.
Ça n'a pas été voté.
Non, ça c'est pas voté. L'expérimentation est votée, elle. Hein, 329 places qui seront créées, des arceaux, des boxes, enfin ça, des consignes, et ça tout dépend, hein, on va moduler. Ça, c'est voté.
Ça, c'est sur la ligne de Castres-Mazamet.
Je crois que sur Matabiau, pour avoir assisté un peu aux réunions, justement, pour ce point-là, il manque quand même, si je ne dis pas de bêtises, 500 000 euros sur le million nécessaire pour la réalisation de ce, de ce projet, en sachant que, je crois que la région justement s'est engagée à hauteur de 500 000 euros, je dis des chiffres comme ça, sans...
Si en plus vous me confirmez que la région est engagée, c'est...
Mais il manque quand même 500 000 euros pour finaliser, et c'est vrai qu'on parlait initialement, enfin vous parliez initialement de la date de 2010, qui a ensuite été repoussée à 2011, et aujourd'hui je crois qu'il n'y a plus de date pour ce projet.
Je reste sur le champ d'intervention de la région. Nous on pousse, on ne fait pas pour les autres. On incite, on est en partenariat, on agit communément. Si la région seule s'occupe de la gare de Porto-Limuré, il n'y aura rien de fait. Il faut qu'il y ait la communauté d'agglomération, il y ait les communes concernées. S'il y a du transport urbain, il faut qu'il y ait ici au SMTC, etc. Ça, c'est essentiel. La région, elle commet un acte. Comme l'aménagement des gares. Martin Malvy a dit, moi je suis prêt à mettre 30% du financement de l'aménagement d'une gare. En matière d'accessibilité, de réaménagement des gares, etc. Mais il y a 70% à trouver. La région, elle n'a pas vocation à prendre à 100% l'aménagement de la gare. Donc quand je dis effectivement que c'est engagé pour la région, je ne veux pas dire toujours sur les axes qui relèvent de notre choix, Castres-Mazamet, etc., l'expérience, elle est lancée, elle est financée. Sur l'extension de cette expérience, parce qu'il restait des moyens sur les gares que je citais, donc ça, c'est enclenché aussi. Ça a été délibéré, puisque le maire de Portet a fait très attention au nom de Portet sur Garonne dans une élite, tout bêtement, hein, appliqué comme ça. Mais par contre, sur Matabio, c'est enclenché pour nous, pour nos services, pour la volonté politique. Le résultat n'est pas forcément acté. Mais on ne peut pas prétendre, quand on est la région et qu'on est candidat à un niveau institutionnel, qu'on fait tout pour les autres. Sinon, on se moque de vous. Je voulais dire les accroches. On acquiert du nouveau matériel. Et ce nouveau matériel, il est prévu effectivement que la place au vélo soit faite. Et puis on modernise du matériel. Hein, il y a un plan quand même de modernisation de 335 millions d'euros. Et donc ce matériel modernisé, il est prévu aussi effectivement que des accroches soient faites. Ça sera probablement pas suffisant par rapport au nombre de vélos. Donc moi je joue beaucoup la complémentarité entre la possibilité de gardienner ou de, en tout cas de stocker son vélo en gare. Et puis la possibilité, je comprends bien que stocker dans une gare, c'est s'empêcher d'avoir le vélo à l'autre gare s'il n'y a pas de vélo-station. Hein, bon.
Alors je me permets de poser la dernière question, parce qu'il n'y avait pas de main levée. Il concerne un secteur sur lequel vous avez a priori compétence totalement. Il s'agit des lycées, je reviens sur ce sujet-là. Seriez-vous disposé à faire en sorte que dans chacun des lycées de la région, il y ait une personne nommée spécifiquement pour le développement du vélo, avec un budget alloué pour communiquer et inciter à la pratique du vélo dans les lycées? C'est la génération qui y vient, et c'est par elles qu'arriveront les changements majeurs, avec des objectifs chiffrés annuels de progression dans la pratique du vélo par les lycéens.
Non, aujourd'hui, on n'a pas, et à ma connaissance, pas en termes programmatiques, posé de correspondant lycée de la région.
Dans le futur?
Non, il faut être très clair, ce n'est pas posé, et ce n'est pas posé en termes de projet, de programmatique. Donc, on verra, on a encore quelques jours de débat, de dialogue et d'échange avec l'équipe. Par contre, il y a des dispositifs, vous voulez reprendre la parole parce qu'il voulait revenir sur le dispositif, probablement. Hein. Tout ce qui relève effectivement des démarches éco-responsables par rapport au lycée que nous encourageons, et notamment à travers l'ARP, hein, et le registre de la mobilité, fait partie de cet aspect-là. Nous avons, pour répondre aussi à une question qui était posée par rapport à Rive Gauche, je regardais mes petites fiches, parce que j'ai cet avantage sur d'autres d'avoir quelques petites fiches là-dessus, nous avons effectivement fait des enquêtes flash, qu'on appelle des études flash, sur les lycées, et nous avons constaté un certain nombre de problèmes, et Rive Gauche, effectivement, je crois qu'on a 20 places de parquage de vélos, et puis rien de plus. Et d'ailleurs, rien d'engagé au stade où je vous parle, hein, sur ce lycée. Mais sur d'autres lycées, nous avons constaté des problématiques de parquage de vélos à améliorer, et donc il y a ponctuellement sur des lycées des réponses, mais ça c'est le travail quotidien de l'institution régionale hein, par rapport à ça. Donc il y a des réponses ici ou là sur les lycées. Le correspondant lycée, c'est pas une idée dont on a débattu. J'ai la faiblesse de penser que l'acteur lycée, s'il s'engage, et la démarche qu'il a dit, il y a eu beaucoup plus de réponses qu'on attendait, d'engagement de lycée par rapport à ces démarches soit d'agenda 21, prenant en compte notamment les questions de mobilité, c'est peut-être du terrain que viendront les volontaires pour être aussi des correspondants. Je ne pense pas que la région aille demain sur financer des correspondants systématiques dans tous les équipements qui sont de sa responsabilité.
C'est pas nécessairement financer quelqu'un de nouveau, ça peut être une personne qui travaille déjà dans le lycée, qui soit le correspondant.
Ça peut être.
Mais il y a un point de départ en fait sur lequel il faudrait peut-être y avoir réfléchi, c'est qu'en fait, dans la mesure où je vous indiquais également, de plus en plus important de lycées qui rentrent dans des démarches d'éco-responsabilité ou de préparation d'agenda 21. Donc forcément, on a dans un cas un responsable environnement et dans l'autre un responsable agenda 21, soit dans l'équipe d'enseignants, soit dans l'équipe du personnel technique du lycée. Donc il faudrait voir si en fait on ne pourrait pas fixer une partie de l'activité en fait automatiquement du service d'enseignement sur la partie transport. C'est impossible. Vous verrez sur le site de l'agence le module qui a été préparé à la fois pour agenda 21 et pour environnement, il y a un module transport.
Une partie de ma question était la notion d'objectif chiffré, de même que la ville s'est engagée à 15% de pratiques cyclistes à un horizon 2020. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager sur des chiffres?
Alors, maintenant, c'est difficile. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand on rentre, c'est pas une pire, ouais, parce que vous faites. C'est qu'en fait, lorsque un lycée rentre dans une démarche d'éco-responsabilité, forcément, il faut faire un état des lieux, la situation, et ensuite, après, il faut se fixer des objectifs établissement par établissement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le premier point environnemental des lycées Midi-Pyrénées, en fonction de ce que la région a pu récupérer, c'est les modes de chauffage. Hein. Il y avait, dans le parc des lycées Midi-Pyrénées, encore des chaufferies au charbon et des vieux chauffés au fioul. Et la priorité a d'abord été là, hein, en termes d'environnement. Il y a juste un point que je voudrais mentionner, dont nos collègues précédents n'ont pas parlé, c'est tous les transports qu'on peut éviter. Hein. Je crois que c'est un point sur lequel il faudra de plus en plus porter notre attention. Il y a en tout cas professionnellement un gisement de déplacement souvent inutile, que l'on peut très facilement en fait, éviter par des moyens modernes de communication.
En termes de chiffres, il est vrai par exemple que nous avons un chiffre, je pourrais dire 6 millions budgétés sur 2010 pour favoriser tout ce qui relève d'approches plus économiques en matière d'énergie, plus efficaces sur nos lycées. Ça, c'est vrai que c'est chiffré. C'est vrai que l'entrée vélo, ou l'entrée, encore une fois, elle n'est pas chiffrée. Et que le déroulé dans nos lycées de la mise en œuvre d'Agenda 21, ben, je dirais, on ne sait pas exactement ce à quoi ça va faire appel en termes de besoins, d'exigences, de demandes.
Les projets routiers, je veux savoir votre avis sur les projets routiers.
Ah oui, c'est vrai.
Il y a un autre événement que je demanderai à chacun.
Je m'étais promis que
ce sera la dernière.
Écoutez, moi je vais pas. Si je vous disais que la région ne s'engage pas sur la route, vous me traiteriez de menteur et vous auriez raison, puisque vous savez pertinemment que nous sommes engagés sur la route. Et que dans le projet d'aménagement et de développement du territoire Midi-Pyrénées, la route tient sa place. Donc moi, je ne rencontre pas de craque là-dessus. Simplement, je peux vous dire aussi qu'en matière de contrat de projet État-région, ou contrat de plan État-région, il y a eu une inversion, un renversement de tendance entre le rail, qui est quand même le premier budget d'investissement de la région dorénavant, et la route. Mais notre conviction est aussi qu'il y a un certain nombre de sites en région qui méritent, alors je sais que ça fait débat, on ne sera pas d'accord sur cette question-là, mais qui méritent effectivement aussi d'avoir un désenclavement routier, hein, ça c'est important. Par ailleurs, un débat que vous ne citez pas, je me le permets, parce que je représente la région à la société aéroportuaire Toulouse-Blagnac, c'est que de renforcer aussi l'utilisation du train, je pense à la LGV, par rapport à l'utilisation de l'avion, me semble aussi être pertinent par rapport aux émissions de CO2 et par rapport aux problématiques de climat.
Merci.
Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je vais vous entendre la liste de Gérard Onesta, Stéphane Copé. Une petite précision sur l'ordre de passage des listes que je ne vous ai pas donné tout à l'heure. On avait terminé l'ordre de passage des différents candidats, nous avons simplement pris par ordre alphabétique les noms des têtes de liste. Voilà, tout simplement.
Parce que si vous aviez pris le mien, j'étais bien.
C'est un critère. C'est un critère comme un autre, voilà, pour ne pas qu'il y ait de partialité spéciale sur un choix. Voilà, donc Monsieur Copé, vous connaissez la formule.
Bien, alors bonsoir à tous. Je vais essayer d'abord de me présenter donc très rapidement. Membre, j'allais dire, relativement historique de l'association Vélo Toulouse. D'ailleurs, j'ai pris ma cotisation tout à l'heure pour la dernière. Donc impliqué chez les Verts depuis 10 ans, élu municipal à Balma depuis 9 ans. Conseiller communautaire donc, du Grand Toulouse, membre de TICE au SMTC pendant 4 ans, de 2001 à 2005, et puis à nouveau pendant donc, 18 mois, donc jusqu'à la fin de 2009. Première chose, pour donner un peu un ordre de grandeur de ce qu'on peut essayer de faire, c'est vrai que le vélo n'est pas, à proprement parler,
une compétence d'une collectivité plus que pratiquement d'une autre. Chacun essaie, là où il est, de faire ce qu'il peut faire au travers des compétences qu'il a. Et je citerai l'exemple de Tissé au SMPC, où quand on veut développer un bouquet de déplacements alternatifs à l'utilisation de la voiture individuelle en solo, ça passe par, et aussi le vélo, ça passe par le covoiturage, par l'autopartage, par les maisons de la mobilité, je vais en reparler, par le transport à la demande, par un tas de choses, et on trouve les biais qu'on peut trouver pour essayer de s'implanter dans le vélo, et c'était le cas à Tisséo par exemple, en créant l'intermodalité, c'est-à-dire la gratuité, la correspondance entre le bus, métro et le vélo, donc avec, si vous vous en souvenez pour certains d'entre vous, la mise à disposition, donc ici en face à la gare routière à l'époque, de vélos en connexion donc gratuite avec le transport collectif. Alors, le mode de travail également que j'ai mis en place à Tisséo pendant 18 mois, c'était également un mode de travail sur le rythme de la concertation, c'est-à-dire effectivement travailler avec les collectivités, membres Tisséo, avec les autres collectivités et avec les milieux associatifs, avec dans d'autres domaines, les milieux culturels, les milieux économiques, afin à chaque fois effectivement d'essayer de trouver les bonnes solutions qui répondent aux besoins en fonction de l'appréhension qui en est faite par ceux qui sont à un moment donné spécialistes du domaine ou de la question. Je ne reviens pas très peu rapidement sur les enjeux, vous les connaissez en termes de déplacement. La plus grande partie, on peut dire à part peut-être les émissions du milieu agricole, mais les émissions de gaz à effet de serre, sont aujourd'hui liées au transport, et surtout, c'est le pourcentage qui est en augmentation la plus forte, avec une énorme majorité, 95%, qui est liée au transport automobile et camion. Donc l'impératif donc, de basculer sur des modes de déplacement plus économes que le vélo, mais ce n'est pas à vous que je vais faire la démonstration de l'utilité du vélo. C'est également un enjeu de société, en termes de convivialité et de contact. Il n'y a rien de pire que la bulle automobile pour ce qui est des relations humaines, d'où l'importance de ces champs. Je voudrais revenir sur trois. Alors, évidemment, on a répondu donc le plus rapidement possible au niveau d'Europe Écologie au questionnaire qui avait été élaboré par l'association Vélo. Je reviendrai surtout sur trois actions que nous avions déjà rédigées dans notre programme qui est disponible sur site internet depuis déjà un certain nombre de mois. Je n'ai pas indiqué que j'étais 33e sur la liste Haute-Garonne d'Europe Écologie pour les régionales. Éco-rédacteur, vous l'avez deviné, donc du programme d'Europe Écologie. Sur trois actions que je disais, donc on n'a pas attendu que l'association Vélo nous pose la question pour les mettre en avant, et qui illustrent ces trois actions également, les trois champs, les trois thèmes que nous développons au niveau de cette campagne Europe Écologie. La notion d'anticipation, anticiper maintenant, anticiper entre autres les grands mouvements, j'allais dire, en cours et la réponse aux crises écologiques et sociales, et notamment donc entre autres la raréfaction du pétrole. Réorienter vraiment donc les politiques publiques, deuxième grand thème, et le troisième grand thème de la gouvernance, donc gouverner autrement. Alors sur le premier thème, de l'anticipation, je prendrai l'exemple du TER et des besoins très importants, donc, puisqu'on se centre bien sûr sur les compétences régionales, qui existent en termes d'achat de nouveaux matériels, de développement de nouvelles voies, de nouvelles lignes, de nouvelles fréquences, et puis effectivement l'équipement de ces matériels, sans doute autrement, alors sans faire la promesse que ce sera merveilleux demain, je veux dire, en termes d'accroche vélo, mais en tout cas, effectivement, avoir une bonne complémentarité entre les besoins de transport des vélos à bord des TER, mais également au niveau des gares. Alors, non seulement pour du stationnement de vélo, il suffit d'aller se balader dans des villes comme Amsterdam ou autres, et je veux dire, on se rend compte que des silos, comme on a ici en face, ce sont des silos à vélo, ce ne sont pas des silos à voiture. Donc, oui, au projet développé à l'initiative du Conseil régional et de la SNCF, je veux dire, sur le rez-de-chaussée de ce parking, mais j'irai même pour nous, demain, c'est non seulement rez-de-chaussée, mais ce sont y compris les étages. Simplement, je voudrais quand même mettre les points sur les i. C'est un projet qui, effectivement, cette fameuse expérimentation Axe Castres, Toulouse, Mazamet Toulouse, dont on nous parle depuis longtemps, hein, mais encore une fois, du discours aux actes, je suis désolé de constater qu'au bout d'un certain nombre d'années de mandat de Martin Malvy et de son équipe, donc aux commandes de la région, nous en sommes toujours aux promesses. Cette expérimentation sur Toulouse-Mazamet, aujourd'hui, elle est sur le papier. Et je confirme tout à fait pour avoir participé à la même réunion que tout à l'heure auquel on faisait allusion, il n'y a toujours pas le bouclage financier pour réaliser ce fameux parking à vélo de 680 places de vélo, donc au rez-de-chaussée de la gare Matabu. Donc enclenchant, et je veux dire, il est quand même, on ne peut pas toujours dire on va faire. Je veux dire, réaliser, comme ça se fait en Suisse, en Allemagne, partout, des bulles à vélo, hein, ou ne serait-ce que des appuis vélo dans la plupart des gares, dans la quasi-totalité des gares, c'est un montant qui est quasiment dérisoire à l'échelle des montants. Alors je me suis permis d'ailleurs de chiffrer un petit peu. Je ferai la même réponse que Thierry Sio sur le fait de y aura-t-il une ligne budgétaire vélo? Non, il n'y aura sans doute pas de ligne budgétaire vélo. Par contre, effectivement, on est tout à fait capable, au titre ne serait-ce que de l'évaluation des politiques publiques, d'identifier dans l'ensemble des politiques publiques qui sont menées tout ce qu'on est capable de faire pour le vélo. Je me suis permis de chiffrer, alors, à la louche, encore une fois, rapidement, je l'ai fait tout à l'heure en salle. Hein. Ce qu'on propose, ce serait à peu près 30 millions d'euros par an d'investissement sur le vélo. Bon, essentiellement lié à la question des véloroutes et des voies vertes, des connexions au lycée de pistes cyclables, au lycée et aux gares, et l'aménagement de ces fameux parkings à vélo dans les gares, c'est l'essentiel du budget. 30 millions d'euros, c'est moins d'un dixième de ce qui est consacré à l'ensemble des autres transports, donc au niveau région, donc essentiellement investissement dans le ferroviaire et investissement hors ligne à grande vitesse, parce que si je commence à compter la ligne à grande vitesse, là, on explose tous les compteurs, et route. Hein. Donc, on est, alors, sur le fonctionnement, on y reviendra, mais c'est au maximum 10 millions d'euros par an. C'est très important, 10 millions d'euros par an, mais bon, on le dira à l'échelle de ce qu'on appelle les maisons du vélo et ces maisons de la mobilité qu'on pourrait créer. Et ça, c'est le deuxième axe que je voulais retenir. Donc, j'ai dit anticiper donc, sur la question des vélos. Réorienter, c'est la question, effectivement, de ce basculement des investissements, mais aussi du fonctionnement, sur ce qu'il y a. On a commencé à le faire, Marie-Régine Bardoux est dans la salle, qui a été l'initiatrice de la maison de la mobilité à la Belge Minopole, que j'ai souhaité au niveau de Tisséo, alors projet bloqué aujourd'hui par le socialiste Pierre Cohen, donc qui est à la tête désormais de Tisséo et du Grand Toulouse, mais déployer ces maisons de la mobilité, ces pôles d'échange, partout, non seulement dans l'agglomération, mais puisqu'ici on est au niveau des élections régionales, sur les principales gares de la région. Hein, et pas seulement les chefs-lieux de département, mais je dirais toutes ce qu'on appelle des gares, puisque les autres on les appelle des points d'arrêt. Bon, les points d'arrêt, on pourrait éventuellement se contenter de stationnement, d'appui vélo, de choses comme ça, mais dès qu'on a une gare, il faut redonner vie à cette gare. C'est une maison du service public, c'est-à-dire que ça ne prend pas que le vélo, hein. Et c'est même pas sans doute que le transport, c'est également sans doute, ben, malheureusement, recréer des services publics qui ont disparu par ailleurs, hein. Des commerces éventuellement, mais au niveau des transports, c'est trouver dans toutes ces gares une articulation entre le vélo, le gardiennage de vélo, la mise à disposition de vélo, donc à l'image de ce que j'écrivais tout à l'heure, qui avait été mis en place en 2002, 2003, 2004 sur la gare Matabio, mais le covoiturage, l'autopartage, la connexion avec le transport à la demande zonale, donc qui permet d'étendre l'impact des trains donc, dans un rayon de 10 à 15 km autour des gares, la connexion avec des gares, des bus en fonction du territoire. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, c'est gouverner autrement, avec effectivement, alors, gouverner au sens que je l'ai décrit, c'est-à-dire déjà de la liaison, la connexion, la participation des associations, des territoires, des élus des territoires, donc aux choix qui sont à faire, mais également communiquer sur l'ensemble des actions. Il y a un moment qui m'a énormément plu dans ces 18 mois à Tisséo, ça a été mon voyage à Odense, au Danemark. C'est absolument incroyable, ils sont arrivés à passer à plus de 30% de déplacements à vélo. Alors, il y a des investissements derrière, mais il n'y a pas que des investissements. C'est incroyable ce qu'ils ont déployé en termes de communication. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un objet de communication dans la ville qui ne soit pas quelque part une allusion au vélo, c'est toute une démarche. Et là, au niveau des lycées, alors bon, il y a, dans ce poids, je dirais, en termes de communication et de fonctionnement, il y a aussi ce qu'on consacrerait éventuellement à la mise à disposition assez systématique de vélos pour les lycéens, hein, donc en plus des usagers du TER, et ça peut peser relativement lourd dans le budget de fonctionnement, donc puisque c'est récurrent, hein, donc ce serait une espèce de chèque vélo qui serait donc donné aux lycéens pour effectivement privilégier l'usage du vélo, même par rapport au transport collectif, qui revient beaucoup plus cher quand on fait bien le calcul, que la simple mise à disposition de vélos aux lycéens. La question dans le fonctionnement également, on le disait puisque vous posez explicitement la question, participation par exemple à la maison du vélo. Oui,
la région a dû aider effectivement à l'investissement et à des emplois effectivement aidés. N'empêche que la maison du vélo aujourd'hui ne fonctionnerait pas, je tiens à le dire ici, si Tisséo n'avait à un moment donné pas pris il y a un an la décision de dire on met 300 000 euros et on fait démarrer ce dispositif parce que toutes les collectivités se regardaient en chien de faïence entre le conseil général, conseil régional, Grande Toulouse, hein, et c'était pas, personne ne voulait s'y mettre. On a fait le geste en disant, bon, après, maintenant, les années suivantes, il faut que les autres arrivent. N'empêche qu'on a fait démarrer le système. Donc, effectivement, oui, à une participation de la région demain au fonctionnement, non seulement de la maison du vélo à Toulouse, mais je viens de le dire, des maisons, entre guillemets, du vélo ailleurs. Troisième, donc, et je termine sur la gouvernance, sur la troisième gouvernance. Comment Arnaud Lafont l'évoquait tout à l'heure, alors il a appelé ça autorité organisatrice régionale, etc. Moi, ça fait déjà 5 ans à peu près que j'ai rédigé les statuts du syndicat SRU. Le syndicat SRU, c'est quoi? C'est effectivement cette association de l'ensemble des collectivités impliquées dans les transports donc à l'échelle régionale, le conseil régional bien évidemment, les départements, les communautés urbaines ou d'agglomération, pour, et c'est un texte qui existe au titre de la fameuse loi Guesso SRU, hein, pour mettre en commun des financements pour gérer mieux l'intermodalité, précisément, c'est un des axes importants ici, et l'information des voyageurs et la coordination des modes de transport. L'intérêt du syndicat SRU par rapport à tout autre mode hein, de qu'on peut imaginer une association informelle, des choses comme ça, c'est que ça permet également de capter des financements, et entre autres le fameux versement transport additionnel. Il y a la même chose que ce qui existe sur une grande agglomération comme Toulouse, c'est-à-dire une taxe sur les employeurs publics et privés de plus de 9 salariés. Alors elle ne serait pas au taux de 1,8 qui est assez important, elle serait un taux de 0,5 et qui permettrait de capter 10 à 20 millions d'euros sur le territoire régional concerné pour financer des actions en termes d'intermodalité, mais surtout au-delà de ça, c'est une espèce de table ronde permanente de l'ensemble des autorités organisatrices pour travailler sur ces projets de véloroute, voie verte ou ce qu'on a pu citer ce soir. Je m'arrête, je crois, là, dans l'essentiel voilà, des propositions sur lesquelles je voulais venir pour laisser une place à la discussion.
Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un a une question? Moi, la mienne, SRU, c'est pour dans le contexte régional
là. Le SRU, je veux dire, ça
fait la signification
de SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain. Hein, c'est le nom de la loi. C'est le même nom dit aussi Guesso, hein, qui a été voté en 2000. Et qui comporte un chapitre sur ce thème. Je pensais que la question du corps, c'était ben, quand tout le monde arrive se mettre d'accord. Alors on peut démarrer avec un, deux acteurs, et puis après les autres arrivent dans ce dispositif. Ce que je constate, c'est qu'en Rhône-Alpes, c'est en train de se mettre en place en ce moment. Dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est en train de se mettre en place en ce moment. À mon initiative, on en parle depuis 2 ans à Toulouse, et puis les grandes collectivités à dominante socialiste se rejettent gentiment la balle entre les uns qui veulent appeler ça syndicat SRU, les autres qui veulent appeler ça. Je ne sais plus quel nom a été inventé. C'est conférence des exécutifs, enfin d'autres noms. Le tout, c'est surtout de se rejeter la balle et de ne pas faire.
Thomas. Bon, ma question est connue. La position d'Europe Écologie sur
les routes.
Le subventionnement des routes.
Voilà, sur les routes, elle est très claire. Hein, c'est-à-dire, alors après, on n'est pas là. Hein, je reprends ce qui a été dit tout à l'heure. Les routes, il en existe. C'est-à-dire, on sait se transporter d'un endroit à un autre en Pyrénées aujourd'hui sans problème. Hein. Les seuls problèmes qu'on peut avoir, hein, je le redis souvent, sont des problèmes soit de sécurité, soit des problèmes de capacité, soit des problèmes de confort. Le problème de sécurité, ils deviennent quand même relativement ponctuels et marginaux sur le territoire régional. Il y a encore, de temps en temps, sur certains points du territoire, quelques platanes qui traversent la nuit les routes. Toujours pas compris. C'est un axe, effectivement, d'études, d'analyse, mais il faut savoir borner ce problème de sécurité à ce qu'il est. Il y a quelques, non mais je plaisante, mais quelques petites traversées de hameaux, peut-être à faire, mais voilà. Ne faisons pas dire à la sécurité, ne prenons pas comme la sécurité comme alibi pour tout faire. Il y a beaucoup, énormément de choses qui ont été faites dans le domaine. La capacité, plus on donne de la capacité, plus on incite à l'utilisation du réseau. Et je crois que le débat public qu'il y a eu sur le grand contournement autoroutier de l'agglomération toulousaine qui est une parfaite illustration de cette question. On crée une grande autoroute à 30 ou 10 km de Toulouse. On captait même pas 10% des flux, c'est-à-dire même pas 3% des flux d'heures de pointe sur la rocade. Et surtout, ben, on recréait... Hein,
une espèce de ballon d'oxygène, donc on avait plus de voitures, je veux dire, pendant quelques années, enfin, on recréait la possibilité de faire croître le trafic automobile sur la rocade pendant quelques années. Donc le débat a été tout à fait instructif de ce point de vue-là, et on a montré que c'est plus en développant le transport collectif, y compris ce que j'ai proposé moi-même, bloqué par Pierre Cohen aujourd'hui, c'est-à-dire des bus express sur la rocade, sur des voies réservées par la rocade, où là, effectivement, on recréera des possibilités de faire en transport en commun ce qu'on peut faire en voiture, se déplacer d'un point à un autre. Je fais d'ailleurs la parenthèse sur le vélo. C'est pareil, qu'est-ce qu'on constate? On a beaucoup de vélos où? Là où on a des axes structurants lisibles, hein, je reprends le paramètre de lisibilité, de signalétique, etc. Le canal du Midi, c'est un axe structurant. Les ramifications, elles sont très intéressantes. On vient sur le canal et on ressort du canal. Comme on vient sur une ligne de transport de métro, par exemple, ou tramway, et on en ressort. On a cette attraction, comme on vient sur l'autoroute, hein, sur la rocade, et on en ressort. Ces véloroutes et ces voies vertes, elles doivent venir jusqu'au cœur des agglomérations. Hein, c'est-à-dire qu'on en a une, bon, le canal du Midi, mais demain, on doit avoir une liaison est-ouest et peut-être d'autres, c'est-à-dire qu'on doit vraiment créer un espèce de schéma structurant, hein, donc de circulation à vélo, donc au travers de ces véloroutes et voies vertes. Je ne sais plus, oui, c'est ça. Et puis, le troisième, c'était le confort. Le confort, ben, c'est, par exemple, c'est Toulouse-Castres. Pour moi, c'est une opération, essentiellement à part la traversée de... C'est pas Soile, c'est... Il reste un bled qui n'est pas... est évité. Je veux dire, à part ça, c'est du confort. En termes de capacité, il n'y a absolument aucun besoin. On nous dit on va aller plus vite, c'est pas vrai, les poids lourds auront exactement la même vitesse de parcours qu'aujourd'hui sur National. Les voitures arriveront peut-être un peu plus vite tant qu'on laisse la limitation à 130 sur une autoroute qui est congestionnée au bout, pas sur une rocade. Donc je veux dire, non, ne mettons pas de l'argent, même dans le confort, entre guillemets, automobiliste, mettons de l'argent du confort à vélo, du confort en transport collectif, en TER, en particulier, et plus de trains.
Quelque chose sur la Toulouse-Castres, oui. Que j'ai fait pendant un an,
oui.
Donc on en discutait tout à l'heure, etc. Moi, je l'ai faite dans la transition où je n'habitais plus là et que je suis venue habiter à Toulouse. C'est une route voilà, que j'ai fait mal. Enfin, j'ai essayé donc de changer, et je voudrais défendre aussi l'idée de travailler local. Parce qu'en fait, on se préoccupe de comment aller d'un endroit à un autre, mais pour la qualité de vie, en plus que pour la sécurité, en plus que pour le vélo, ça serait bien aussi de commencer à essayer de revivre un petit peu en tout, dans l'environnement proche. Parce que voilà,
il y a des projets qui pourraient être aidés par la région dans ce domaine, mais aussi avec les initiatives des territoires. C'est ce qu'on appelle des espèces de bureaux délocalisés. C'est-à-dire, c'est des endroits où les gens viennent travailler. Alors, il y a un truc qui est né, là, je crois, dans l'Ariège ou au sud du département. Mais simplement une plateforme téléphonique.
À Saint-Lizier.
Voilà, Saint-Lizier. Mais au-delà de la notion de plateforme téléphonique, c'est des bureaux où on peut venir travailler, où on est en connexion parfaite avec son employeur, mais on n'est pas chez soi, mais on n'a pas non plus besoin de faire 80 km pour aller au boulot.
Oui, pas simplement dans le fait, voilà, de travailler par Internet, mais vraiment vivre localement, chose qu'on ne fait plus du tout. Moi, je connais des gens qui venaient faire à Toulouse les choses que moi, j'allais faire à Castres.
Oui, certes, aussi.
Mais des fois, même le quartier, on ne conçoit plus de pouvoir essayer de vivre, travailler dans le quartier, on prend la voiture pour accompagner les enfants. Et mis à part choisir entre vélo, voiture, transport en commun, on pourrait aussi encourager... moins courant dans les transports, essayer de faire les choses d'une manière de proximité, mais c'est un long terme, mais c'est une chose qui augmente aussi la qualité de vie. C'est moi, exact. Sur la Toulouse-Castres, j'ai failli mourir comme tout le monde, parce qu'on l'a fait, il faut se dépêcher, etc. Et moi, je déteste la voiture et je n'avais pas le choix, parce que le train, entre 8h et midi, il n'y en a pas, Toulouse-Castres, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc il y a aussi moi je dis que ça, la voiture je l'aurais jamais prise, hein.
Ça fait 20 ans que ça dure, ça.
Donc je n'ai pas eu le choix par rapport aux autres. Pour dire qu'effectivement, si on rendait aussi difficile le transport en voiture qu'on rend parfois difficile le transport, bah, comme le monsieur disait tout à l'heure, lui à vélo il ne peut plus y aller. Si on rendait difficile le transport en voiture au lieu de l'aménager de plus en plus, ben, comme moi, hein, que j'ai dû faire ce que je ne voulais pas faire, les gens finiraient par se... S'ils mettaient plus de temps en voiture qu'avec un transport en commun, ben, peut-être qu'ils changeraient.
Moi, j'ai une question. Vous avez sûr d'avoir bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure. Quand on parlait de budget, on parlait de 30 millions d'euros par an.
D'investissement
par an, oui. Pour les voies vertes.
Je reprends la totalité du programme que vous avez proposé, pour laquelle on est d'accord là-dessus. C'est une réorientation des politiques publiques. J'ai parlé de réorientation, c'est-à-dire que demain,
Il n'est pas question de dire, je veux dire, demain, on va prélever davantage d'impôts. D'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure, on ne pourra même plus, de toute façon, donc la question ne se posera même plus. C'est une question de réorienter. C'est-à-dire, il y a peut-être 30 millions bah, qu'on met aujourd'hui sur des routes, qu'on mettra sur du véloroute et voie verte. Par an. J'ai calculé que, bon, avec des, alors selon le degré de participation sur les véloroutes, voie verte, on parle de 30%, on parle de 30%. Si c'est plus, c'est plus. Ça permettrait de réaliser 120 km de véloroute et voie verte, plus les autres actions que vous avez, qu'on a citées, hein, donc les connexions aux gares, les connexions au lycée, etc. Je reviens sur les gares. Moi, j'entends le discours que tient aujourd'hui l'équipe en place au conseil régional sur les gares. On ne peut pas, on n'est pas les seuls financeurs, etc. La SNCF veut rester propriétaire des gares. N'empêche que c'est, de toute façon, ce sont les collectivités qui font tout, qui donnent tout, qui aménagent tout. Demain, les gares doivent devenir propriété de la région, pointe à la ligne. Et c'est 100% de financement en termes d'investissement qu'il faut qu'on ait sur les gares. Avec la limite qu'à l'exercice. On ne s'en sortira jamais. Hein. On citait l'exemple, vous citiez l'exemple tout à l'heure de Portée-sur-Garonne. À force d'essayer de... Je ne veux pas tenir certainement pas le discours de Sarko sur le milieu territorial, etc. Mais à force de se rejeter tout le temps la patate chaude les uns aux autres, etc., et c'est pas moi, etc., on ne fait rien. Le programme de Portée-sur-Garonne, ça fait 10 ans qu'il est dans les tiroirs. 10 ans. Il n'y a pas une pierre, il n'y a pas une brique qui est mise sur ce poêle d'échange. Et c'est pas faute d'énergie passée à Tisséo, en l'occurrence, sur le dossier.
Pierre. Oui, par rapport au train, toujours, et au train vélo, évidemment. Bon, actuellement, les TER, ils sont constatent que c'est une bonne nouvelle, je dirais, ils sont victimes de leur succès. Parce que, bon, quand on prend le train, on constate qu'il y a du monde dans les trains. Et je pense que là, il va falloir investir. Alors, quel est le montant et le programme au niveau d'investissement? Par exemple, des choses comme le doublement de la ligne entre Toulouse et Albi. Ou des choses comme ça qu'il va falloir faire, quoi. Et la rénovation de certaines lignes, comme je pense par exemple à celle de Luchon, où le train est complètement, qui est en déconfiture la plus totale, qui est dans un état de délabrement avancé. Est-ce qu'il y a des mesures à prendre?
J'ai tapé, parce qu'il faut taper un peu aussi sur ce qu'a pu faire la région jusqu'aujourd'hui. Il y a quand même un acte majeur, c'est peut-être le seul d'ailleurs majeur qui a été mené dans les dernières années du mandat de Martin Malvy, c'est bien sur le rail, un truc de rénovation des voies. Maintenant, de dire, alors, de rénovation plus quand même en termes de capacité, vous savez, le doublement de Toulouse-Saint-Sulpice.
Bon. Augmentation de capacité générale, hein, parce que...
Augmentation de capacité entre Toulouse et Saint-Sulpice. Le reste, c'est la remise à niveau. Hein, sinon, c'est la remise à niveau, c'est tout. Bon, après, s'il faut aller plus loin, bon, on a des études, je suis bien placé, j'ai travaillé 7 ans à la SNCF pour définir pratiquement ce qu'il fallait mettre dans le rail. Donc, je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Il peut y avoir, effectivement, des évites, ce qu'on appelle des voies d'évitement, à tel endroit, pour effectivement donner de temps en temps un peu de capacité à certains axes. Mais, je ne vais pas vous dire, dans les 4 ans qui viennent, si Europe Écologie est élue, oui, ce sera doublement Toulouse-Albi, ce sera doublement, etc. Après, il faut... On a des réseaux, quand vous regardez la Suisse, hein, ils ont un des réseaux qui sont à dominante, à voie unique, hein, je ne parle pas des grands axes, Berne, Genève, etc., et ça fait rouler un nombre de trains impressionnant, avec des points de croisement réguliers, etc., sur ces voies uniques. Donc, je veux dire, c'est aussi une capacité à exploiter, peut-être à rénover de la signalisation, par exemple, bon, une capacité à exploiter que, malheureusement, ben, les interlocuteurs l'ont déjà dit tout à l'heure dans la salle, mais nous ne trouvons pas en face, du côté de la SNCF aujourd'hui, j'en suis... navré.
Monsieur.
Bon, alors, tout à l'heure, il a été évoqué le canal du Midi. Je l'emprunte assez souvent. Le côté positif, les accès au canal du Midi et l'écluse de Castanet, notamment avec son point qui est très agréable pour pouvoir s'arrêter, pour pouvoir voir un tour, etc. Mais qu'est-il fait de l'autre côté? De l'autre côté, sur le canal latéral, il y a un problème. Premier problème, c'est la distance. La distance, on est limité à une trentaine et quelques kilomètres de où on est, parce qu'après, et ça c'est la région,
c'est plus loin.
Ce n'est plus où on est.
Tu peux aller jusqu'à Castanet sans voir. 193 km continu. Tu peux remballer ta
vie. Oui, mais ce n'est pas bon.
C'est le canal. Le canal Montège-Montauban n'est pas gros.
Depuis que c'est où on est, ça s'arrête à Pompignan.
2009.
Et le canal
depuis l'an dernier.
Tu as 500 mètres de d'empirer, bon. Tu continues.
Et ah bon, alors, ensuite aménager justement des points comme ça, le rendre agréable comme le canal du Midi. Et en même temps prévoir quelque chose pour la sécurité, parce que je sais qu'il y a eu des attaques sur la sécurité sur
le canal. Bon. Là-dessus, d'abord, je reviens sur ma question antérieure. J'ai dit, on augmente la capacité de Toulouse, ça suffit. Ça veut dire que c'est de la capacité pour Castres et pour Albi. Hein, je le dis pour tout à l'heure. Hein. Sur cette question, oui, bien sûr, véloroute, voie verte, c'est pas que du bitume. Hein, on l'a dit, c'est peut-être pas d'ailleurs tout le temps du bitume. Mais ce qui est clair, c'est que c'est un projet, y compris à connotation touristique, c'est-à-dire avec des équipements. On a cette chance que le canal du Midi est longé dans une bonne partie de son marché, y compris par la voie ferrée ou réciproquement. Donc ces fameuses gares, ces fameux pôles d'échange dont j'ai parlé tout à l'heure, ben, ils sont à l'articulation à la fois du réseau ferré et du réseau cyclable. Donc on est effectivement capable de créer effectivement des connexions au réseau ferré et au niveau du canal.
C'est pareil pour le canal latéral.
Oui, le canal latéral, je parlais du canal latéral, plus que le canal du Midi. Voilà.
Merci, on est tout juste arrivé. Allez, très rapidement.
La part du vélo dans les freins, est-ce que vous voulez l'augmenter parce que ça reste toujours imprécis de la part des élus précédents, depuis M. Marziani qui a toujours été très vague par rapport à ça, qui n'a jamais dit, quand on lui posait exactement la question. Est-ce que vous allez déjà garder les vélos dans le train? Oh, on ne sait pas, il y a des contrats bombardiers, on ne peut pas leur dire tout ça. Voilà, enfin donc c'était très nébuleux. Actuellement, il va y avoir encore des vélos dans le train, mais on ne connaît pas si la part va être augmentée ou pas. Et c'est vrai que quand on met son vélo dans le train, on culpabilise un petit peu parce qu'il y a trois accroches et après on gêne tout le monde et tout ça. Donc je pense que le vélo a le droit d'entrer dans le train. Est-ce que Europe Écologie veut augmenter cette part?
Alors,
voilà. Dernière question, la gratuité des transports en commun pour les chômeurs, si vous voulez la garder ou pas.
Alors, sur les vélos dans les trains, nous voulons maintenir les vélos dans les trains, maintenir à minima ce qui existe, tout en sachant que c'est insuffisant. Ensuite, l'augmentation, pourquoi c'est-à-dire, on pourrait très bien dire, on met plus de crochets et puis on met moins de places assises, sauf qu'en heure de pointe, vous le savez tous, je veux dire, on ne sait déjà pas mettre les gens assis ou debout dans les trains, donc je veux dire, si on met des crochets en plus. Bon, le problème, c'est qu'on a un problème de matériel roulant. C'est-à-dire que ce matériel roulant, il a été, bien, malgré la politique qui a été suivie, durant davantage d'ailleurs le précédent mandat que dans le mandat actuel, on est encore en une insuffisance majeure de matériel roulant. Alors s'il faut commander, et il faut commander du matériel roulant, il faut commander du matériel roulant avec effectivement des capacités augmentées pour les vélos. Sans se faire d'illusions, il n'y en aura jamais assez. Donc c'est forcément une complémentarité entre du vélo à bord et du service vélo en gare. On ne va pas transporter, à mon avis, des fourgons entiers de vélos. La gratuité des chômeurs, moi je ne suis pas un grand fervent de la gratuité généralisée pour telle ou telle catégorie de personnes. Par contre, il faut que quelqu'un qui ne peut pas payer, ne paie pas. Or aujourd'hui, on a déjà déployé à Toulouse, en Haute-Garonne, en région Midi-Pyrénées, toute une série effectivement de dispositifs qui permettent aux gens qui ont des difficultés financières de ne pas payer. Ça représente à peu près, alors je sais que sur le réseau urbain, c'est 50% des bénéficiaires, c'est heureusement pas 50% des trajets. Bon, je ne suis pas pour non plus là forcément la remise en cause par rapport notamment aux demandeurs d'emploi. Ça peut davantage se discuter sur les personnes.
Excusez-moi, j'étais sur la ligne Albi-Toulouse pendant 20 ans, et je peux vous dire, à certaines heures, il y a beaucoup d'insécurité par ces gens qui sont sans emploi et qui ont des trajets gratuits. Il y a vraiment un manque aussi pour ça.
Comptez pas sur moi pour stigmatiser telle forme de population, un type de population. Je crois que les régions, les raisons sont ailleurs et ne sont pas non plus forcément dans un accompagnement, dans un contrôleur systématique, par exemple, comme certains le disent. Ce n'est pas forcément non plus la solution miracle. Le gars qui est dans une voiture et qui ne peut pas circuler d'une voiture à une autre,
ou qui reste
assis à côté ou du chauffeur.
Ou,
s'il vous plaît. Voilà.
Respectons les règles du jeu, je
peux vous parler. Bon, merci aux catholiques d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc nous allons publier dans les prochains jours les réponses écrites qui vont nous parvenir de ces quatre listes sur notre site internet. Donc vous pourrez les consulter pour vous faire une idée plus précise des propositions de chacune des listes et donc à partir de ça faire votre choix de manière démocratique pour les élections.
Merci à vos questions à tous aussi.